Bonjour! Bonjour les copains, comment ça va? Incroyable! Bonjour tout le monde, bienvenue! Bienvenue, bienvenue, merci d'être là! Comment ça roule tout le monde? Toum, 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 toum. Hop! Ça farte? En ce lundi, j'ai vu quelqu'un qui a dit bientôt le week-end. Ouais, je suis d'accord, bientôt le week-end, bientôt le week-end. Ne vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive. Ça arrive fort. Ça arrive très très fort. Merci Billy pour ton resub. Merci Bémartil. Merci Paramouter. Merci Rhys. Merci Nacha. Merci Tana. Merci Kat. Merci Befolio. Merci pour vos abonnements. On n'a jamais été aussi proche du week-end. On n'a jamais été aussi proche du week-end. Ça, faut pas l'oublier. Je suis d'accord avec toi. Je viens d'apprendre que je suis licencié économique. Donc bon, on fait aller. Ah merde. Ah non, je suis désolé. C'est moche. Mais c'est comme dans le cinquième élément. Genre, t'as reçu un truc. Vous êtes licencié. C'est chaud. Courage. Moi, je suis chômeur. Ça va. Oui, bah très bien. Est-ce qu'il y a un backseat prévu ce jeudi? Absolument, il y a un backseat ce jeudi. Je l'ai annoncé dans ma prog que j'ai publiée sur Blue Sky, comme chaque semaine. Tout, 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 tout. Licenciement économique, c'est royal par contre, à un an payé plein pot. Selon le secteur et selon les accords qui sont trouvés. Hein. C'est pas toujours, pas toujours banger. Mais ça dépend de. Ouais, ça dépend. Et puis il y a le chômage, oui, mais enfin bon, le chômage, c'est pas. Voilà, c'est pas, c'est pas éternel, hein, c'est une bonne béquille, mais bon. Après, faut trouver du taf, quoi. C'est pas toujours facile, hein. Ça dépend du secteur, ça dépend du métier, ça dépend de l'âge. T'as désépinglé ton ancienne prog, finally. Ah ouais, non, parce qu'à chaque fois, je me plante sur l'épinglage. Tiens, je vais réépingler. Voilà, je vais épingler ma prog. Ma prog est épinglée sur mon profil et je vais 100% oublier de la désépingler la semaine prochaine. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est écrit. Merci d'être là, je commençais à angoisser. Wow, à ce point-là. Vivement lundi prochain que j'ai mon premier rendez-vous psy. Ah bah oui, bah du coup oui. Oui, je te le souhaite. Ah tiens, d'ailleurs, faut que je vous raconte la mésaventure dont je fus la victime. Relou, hein? Non, non, mais genre vraiment relou. En fait, il y a un médicament que je prends dans le cadre de mon traitement, que j'ai un traitement quotidien, tout ça, tout ça. Et un des médicaments que je prends, tiens, d'ailleurs, je l'ai là. Voilà, je suis là. Ça s'appelle la quétiapine. Quétiapine, donc c'est un nom de médicament à la con, hein, comme tous les noms de médicaments. Je ne sais pas comment ils font pour se concerter, pour avoir des noms aussi débiles pour les médicaments, mais bref. La quétiapine est un médicament qui a la particularité d'être en rupture de stock, mais genre en rupture de stock vénère sur toute la France. La quétiapine est un anti psychotique classique, c'est pour le traitement de la bipolarité, de la schizophrénie et d'autres trucs. C'est un médicament relativement classique et relativement courant. J'ai lu qu'il y avait 200 000 personnes en France qui prenaient un traitement avec de la quétiapine. Et on est en rupture de stock sa mère. C'est-à-dire que vendredi, j'avais plus de médicaments. Donc j'ai pris ma petite ordonnance comme ça. Je suis allé chez mon pharmacien de quartier. Il m'a dit, ah non, 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 mais ça, on n'en a plus, hein, on n'en a plus, c'est la merde. Bougez pas, je vais appeler. Donc devant moi, il a appelé des confrères du quartier, d'autres pharmacies, pour savoir s'ils en avaient, ils n'en avaient pas non plus. Du coup, j'ai fait, mais c'est relou. Après, je devais faire un truc, donc je me suis barré. J'étais dans un autre quartier, parce que j'ai participé à un événement organisé par l'eurodéputé David Cormant. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, vu que je suis dans un autre quartier que le mien, j'en profite, je prends mon ordonnance, let's go, je vais dans une pharmacie du coin. Je tombe sur une pharmacie où le pharmacien, pareil, me dit, non, non, monsieur, il n'y en a plus en France, c'est la merde. Nous, en plus, on est la pharmacie en face de l'hôpital, donc on est plutôt connu pour faire partie des gens qui ont du stock en général. Mais là, même nous, en fait, on n'en a plus. Et quand nous, on n'en a plus, c'est que vraiment, il y a un problème. Et le pharmacien me dit, la France a déclenché un mécanisme européen de solidarité d'urgence sur les molécules machin parce que c'est vraiment la merde. Et du coup, je rentre chez moi, je check sur Internet. Effectivement, l'ANSM, l'Autorité Nationale de Sécurité du Médicament, a publié un communiqué pour adresser la situation, dire qu'effectivement, il y a un problème. On n'en a plus. D'après le communiqué de l'ANSM, c'est dû à une rupture d'approvisionnement chez un des fournisseurs qui est grec et qui fournit tous les autres labos européens avec cette molécule-là spécifiquement. Donc, bon, bah, il suffit que lui, il ait un problème pour que tous les autres labos aient un problème. Et donc, rupture de stock, sa mère. Pendant ce temps-là, je suis en lien avec mon psychiatre par SMS. Je lui parle du problème. Je lui dis, là, je suis en rupture de traitement. C'est un peu chaud. Il me dit, merde, bougez pas. Moi, j'ai accès au logiciel où on a les informations sur les stocks des pharmacies. Je vais essayer de trouver une pharmacie et tout. Il m'envoie deux pharmacies en me disant, a priori, elles ont du stock, mais appelez-les avant. Je les appelle les deux et les deux me disent au téléphone, ah non, non, Kétiapine, on n'en a plus, vous n'êtes pas le seul monsieur, tout le monde nous appelle, etc., on n'en a plus, hein, c'est désolé. Donc visiblement, je ne suis pas le seul, et visiblement, les pharmacies, puis vraiment, les pharmacies, au téléphone, je leur dis Kétiapine, ils percutent direct, ah non, 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 mais ça, on sait, non, mais vous êtes le 28e à appeler aujourd'hui, on n'en a pas. Donc relou. Relou, donc relou. Et finalement, miracle, miracle, mon psychiatre me dit bon, apparemment, il y a encore du stock dans telle autre pharmacie. Je les ai appelés. Ils m'ont dit qu'il leur restait genre une petite dizaine de boîtes. Donc, vous pouvez y aller. Mais par contre, c'est premier arrivé, premier servi. J'ai sauté dans un bus. J'ai tracé ma race jusqu'à la pharmacie avant l'heure de fermeture. Et effectivement, je tombe le pharmacien adorable. Hein, le pharmacien adorable qui me dit non, non, oui, c'est nous, il nous en reste quelques-unes, effectivement, des boîtes. Et donc je lui dis, bah ouais, vous êtes la 7e pharmacie que je fais. Il me dit, oui, oui, je sais, vous n'êtes pas le seul, on cherchait partout dans Paris et tout. Après, le pharmacien, il a été plutôt rassurant parce que je lui ai dit, mais vous allez être réapprovisionné. Il m'a dit, oui, oui, on va être réapprovisionné. C'est aussi en raison du fait qu'on est en fin de mois, début de mois, et donc il y a des moments où les stocks, c'est pas toujours parfait. S'il y a un pic de demande, on peut se retrouver en situation de rupture et tout. Bon, là, c'est particulièrement chiant, mais c'est des choses qui arrivent et on va être réapprovisionné dans les semaines qui viennent, etc. Machin. Donc bon, je suis rentré chez moi avec mes boîtes de médoc en me disant, bon, bah tant mieux, j'ai à peu près un mois de visibilité devant moi, tant mieux pour moi, mais putain, je pense aux autres, quoi. Les gens qui ont des enfants, les gens qui galèrent, les gens qui n'ont pas comme moi le temps de faire le tour des pharmacies, quoi, et qui n'ont pas un psychiatre qui réagit aussi au téléphone. Enfin bref, donc tant mieux pour moi, j'ai eu de la chance, mais chaud quand même la situation, rupture de stock sur un médicament comme ça. Puis c'est le genre de traitement, il faut pas l'arrêter, il faut pas l'arrêter. Enfin, la rupture brute, c'est la merde. C'est quel médicament ? C'est la quétiapine. La quétiapine, à libération prolongée. Voilà, la quétiapine, c'est un anti-psychotique assez classique. Enfin, relativement courant, en tout cas. C'est pas rare, mais c'est un médicament plutôt utile, quoi. Donc ouais, non, carrément, pas rassurant. Hein, pas rassurant, tu dis, ouais, putain, la vache. Et encore, enfin, bon. Non, mais tu sais, tu relativises dans ce genre de cas. Je me suis dit, bon, d'accord, c'est pour des problèmes de santé mentale. Ça peut être chiant pour des patients, mais t'imagines si c'est des médicaments pour le cœur, des médicaments pour des traitements encore plus vitaux que ça, quoi. Enfin, je devrais pas dire ça, parce que ça peut être vital. Hein. Des personnes en rupture de traitement sur ce genre de traitement, ça peut faire plonger dans des phases dépressives extrêmement violentes qui peuvent emmener à des tentatives de suicide. Donc, voilà, c'est pas marrant, quoi. C'est, faut vraiment faire gaffe, quoi. C'est un souci de problème de fabrication au niveau de la matière première et le fabricant approvisionne 90% des labos qui fabriquent ce médicament. Bah, c'est ce que j'ai compris, oui, c'est ce que j'ai compris. En gros, il y a un labo grec qui est leader quasi monopolistique sur le marché sur la production de cette molécule-là en particulier. Donc c'est eux qui la produisent pour le compte des autres labos, etc. Et bon, bah, c'est con, mais il suffit que celui-là ait un problème pour que plein de labos en Europe aient un problème. Voilà. Donc là, il y a eu un problème. On n'a pas beaucoup plus de détails sur le problème en question, j'en sais rien. C'est un accident industriel, ça peut arriver. Il y a un problème, j'en sais rien, des stocks, des molécules, etc. Mais oui, c'est effectivement ça, ouais. Ouais, c'est un problème sur une matière première. C'est comme les antidépresseurs, l'arrêt immédiat est dangereux. Oui, l'arrêt immédiat d'un traitement antidépresseur, un arrêt brut, c'est dangereux. Il ne faut pas faire ça, il faut faire très attention. Un antidépresseur, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, sont des gammes de médicaments qui modifient les équilibres chimiques dans le cerveau et qui nécessitent des prises en charge et des arrêts extrêmement progressifs. Il faut déshabituer son cerveau progressivement. Il y a un travail de sevrage à faire, mais qui prend du temps, qui est mise en place par un médecin, contrôlée par un médecin, etc. etc., etc. Donc on n'arrête pas comme ça, en claquant des doigts, un antidépresseur. En tout cas, il ne faut pas le faire. Et oui, ça peut être dangereux. Il ne faut pas arrêter d'un coup un traitement avec ce type de molécule-là. Faire gaffe. Ça a changé cette chaîne, c'est plus de la vulga politique, c'est de la médecine. Ouais, on fait de la médecine maintenant, ouais. Je suis hyper calé en plus, hein, attention, hein. Donc voilà, d'ailleurs, c'est un problème, apparemment, là, encore une fois, j'y connais rien, je suis pas médecin, mais j'ai parlé quand même avec pas mal de médecins et tout, il y a des médecins qui me disaient qu'il y a un des soucis dans la santé mentale, dans la santé psy, ce sont des patients qui sont en errance, déjà en errance diagnostique, c'est pas facile, mais aussi en errance médicamenteuse et de traitement, et il y a des gens qui ont leur prescrit des antidépresseurs, ils prennent des antidépresseurs, et puis ils arrêtent d'aller voir le médecin, ils en parlent plus, et puis ils arrivent à la fin de leur boîte, et puis bah, ils arrêtent. En fait, de fait, parce qu'ils ont plus de pilules, donc ils arrêtent. Et malheureusement, ça crée des rechutes. Et c'est pour ça qu'une prise en charge psy, ça nécessite du temps et d'être extrêmement suivi pour éviter ces moments où tu te retrouves en rupture brute de traitement. Je trouve que le fait de limiter le nombre de boîtes délivrées à chaque fois est un vrai sujet ici pour les maladies longue durée. On oblige les patients à aller à la pharmacie tous les mois. Alors que ça peut être des traitements à vie. Si tu as du stock, tu es moins vulnérable aux pénuries temporaires. Je suis d'accord avec toi, je vois ce que tu veux dire. Moi-même, hein, je suis en traitement longue durée et je vais tous les mois à la pharmacie parce que j'ai pas le choix. Ceci étant, tu as aussi besoin d'un suivi régulier, de renouvellement d'ordonnance. Le fait qu'on force les patients, y compris en traitement longue durée, en affection longue durée, à retourner chez leur médecin pour faire le point, même si c'est pour renouveler l'ordonnance encore une fois, ça permet un suivi médical. Je suis pas fan d'un modèle où on permettrait aux gens de faire des stocks d'un an, 2 ans, 3 ans de molécules, et puis ensuite, bah, démerde-toi tout seul. Je comprends la nécessité médicale d'avoir un traitement et un suivi. Voilà. C'est d'ailleurs un problème, si je me souviens, j'avais travaillé sur ce sujet au ministère de la Santé, le problème de l'automédication. On a tous chez nous une pharmacie dans notre salle de bain dans laquelle il y a plein de vieilles boîtes de médicaments un peu périmées qu'on a laissées là parce qu'on a, oh, alors on les a laissées. Et le problème, c'est que bah, y a beaucoup de gens en France qui ils ont un problème de santé et plutôt que d'aller voir un médecin, ils disent « Ah, mais attends, il me reste une boîte de trucs. Ça m'avait bien aidé l'année dernière. Vas-y, je vais en reprendre. » Et ça, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas faire. C'est le genre de truc qu'il faut vraiment éviter. Alors, il y a évidemment des médicaments pour lesquels, bon, bah, les gens savent faire. On connaît tous le Doliprane et tout. Et encore, je ne suis pas sûr que tout le monde respecte les 6 heures de sécurité entre deux prises de Doliprane 1000. Donc, il y a des médicaments, oui, tu mets de l'arnica. Ça, c'est bon, ça, tu te mets pas en danger. Mais le problème, c'est que à t'habituer à te médicamenter tout seul, bah, tu peux être tenté de taper dans tes vieux stocks. Et ça peut être une très, très mauvaise idée. Donc voilà quoi. Étant pharmacien, ça dépend des médicaments, car les médicaments pour la tension, le diabète et les boîtes de 3 mois après pour les médicaments hypnotiques, c'est normal que ce soit un mois par un mois. Je suis d'accord avec toi. Encore une fois, je suis pas un spécialiste, donc je remets pas en question. Je pense que tu as sûrement raison. Il y a d'autres traitements pour lesquels on peut filer 3 mois de médicaments à un patient, c'est pas grave. Mais bon, il y a des gammes de médicaments sur lesquels je comprends qu'il faille faire gaffe. Et qu'il y a pas. Enfin voilà. C'est si dangereux de prendre un doliprane périmé. Alors, j'en sais rien. Dans le doute, principe de précaution, ne prenez jamais de médicaments périmés. En aucun cas, en aucune raison, vous les balancez à la poubelle et vous ne les prenez pas. Quand bien même c'est pas très dangereux sur une molécule, ça peut l'être énormément sur une autre. Et si on commence à s'habituer à prendre des médicaments périmés, ça peut vraiment être dangereux. Et d'autres cas, sur le doliprane, le danger, c'est le surdosage. Et tu sais que ça peut être extrêmement dangereux pour ton foie. Ou tes reins, je sais plus, c'est les reins. Oui, c'est les reins, je crois. On balance pas les médocs à la poubelle. Non, pardon, vous les ramenez à la pharmacie. Oui, effectivement, t'as raison. Les boîtes de médicaments périmés, vous les balancez pas à la poubelle. Vous les emmenez à la pharmacie. Vous les rendez à la pharmacie. Le Doliprane, c'est le foie. Oui, c'est ça, c'est le foie. Mais comme encore une fois, je suis juriste et pas médecin, je sais pas la différence entre le foie et les reins. Je sais, j'ai jamais su, j'ai jamais compris. Enfin, si, je crois que j'ai compris, mais en fait, j'ai pas compris. Mais vas-y, c'est bon là. Dans tous les cas, j'ai compris que c'était dangereux, le surdosage en Doliprane. Voilà, ça j'ai compris. Enfin, C'est au niveau du ventre. Oui, voilà, c'est ça. Et globalement, ça se passe par là. Et voilà. Il y a deux chambres. C'est comme le Parlement. C'est comme le Parlement. T'as le foie et t'as les reins. Et ils dialoguent entre eux. Ça s'appelle la navette. C'est tout pareil. C'est tout pareil. Je le savais, c'est tout pareil. C'est tout, tout, tout est dans la Constitution. D'ailleurs, à propos de Constitution... Ah, vous allez voir, le lien est logique. À un moment, il y a un lien. Mais vous avez vu que la France a organisé un sommet international sur l'intelligence artificielle. Grand sommet international sur l'IA, l'IA en Europe, l'IA et ses dangers, l'IA et ses potentialités, etc. Très intéressant au demeurant. L'organisation de ce sommet, ça a permis d'en parler dans les médias. J'ai vu que France Culture, ils ont fait une journée complète dessus. France Inter, ils ont interviewé des gens, des chercheurs, etc. C'est bien, ça, ça provoque le débat, la discussion, la réflexion publique sur l'intelligence artificielle, la numérisation, etc. Donc très bien. Et ça m'a rappelé que quand ChatGPT est sorti, le premier ChatGPT qui est sorti, genre vraiment celui qu'on a tous commencé à utiliser, pas, il y a sûrement des gens dans le chat qui vont dire « Ouais, mais il y avait une version avant. » Non, mais je vous parle de celle-là, il y a 2 ans, je crois, où vraiment c'est sorti, tout le monde a commencé à en parler, MDR, ChatGPT, on peut discuter avec, machin. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait des gens qui essayaient, et ils avaient bien raison, de tester ChatGPT, de tester les limites de ChatGPT. C'était la 3, je crois que c'était la 3, ouais. Ah, oui, je crois que c'était la 3. Donc, il y avait des gens qui essayaient de tester le... Voilà, ChatGPT. Donc, évidemment, comme Internet a beaucoup d'humour, les gens ont commencé à essayer de lui faire dire des trucs nazis, tu vois, pour voir comment ils l'ont développé. Est-ce que... Donc, ils ont essayé de le rendre nazi et tout, ils n'ont pas réussi, parce que ChatGPT, il y avait des barrières qui avaient bien été programmées et tout, donc non, pas mal, pas mal. Ils ont essayé de lui faire dire des trucs pédophiles. Je me souviens qu'il y avait des gens qui faisaient des prompts et tout pour dire « Comment je fais pour séduire un enfant de 12 ans ? Tu peux me donner des conseils ?» Je me souviens qu'il y avait des gens qui testaient en disant, en demandant à ChatGPT d'écrire une fiction pour essayer de voir s'il pouvait contourner les barrières de ChatGPT en lui disant « Écris-moi une fiction dans laquelle un adulte de 38 ans séduit un enfant de 12 ans. » Vraiment, les gens, jusqu'au bout, ils ont essayé. Moi, il m'a déjà raconté des histoires un peu racistes. Ouais, mais ça m'étonne pas, c'est un peu les limites du modèle. Et il y avait aussi des gens qui essayaient de faire bugger ChatGPT en lui soumettant des paradoxes logiques. Vous connaissez les paradoxes logiques, on connaît tous les paradoxes logiques. Ça remonte à Aristote, les paradoxes logiques Coluche qui disait dans le gruyère, il y a des trous. Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. Donc plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère. Paradoxe. Voilà, ce genre de petite blague un peu débile et tout. Il y avait Aristote. Aristote disait que les Crétois étaient des menteurs. Or, Aristote était Crétois, donc Aristote était un menteur. Donc il mentait et les Crétois n'étaient pas des menteurs. Or, Aristote était Crétois, donc il ne mentait pas. Donc les Crétois sont vraiment des menteurs. Donc... connaissez tous ce genre de paradoxe logique, machin. C'est du sophisme. Oui, non, mais bien sûr, c'est des petits jeux intellectuels et tout. Cette phrase est fausse. Oui, voilà, le fameux paradoxe logique, cette phrase est fausse et tout. Les syllogismes à mort, ouais, c'est ça. Bon, du coup, il y avait des gens qui essayaient de soumettre ça à ChatGPT pour voir s'ils arrivaient à faire bugger ChatGPT. Ils ont essayé aussi de faire bugger ChatGPT avec le pari de Pascal sur l'existence de Dieu. Est-ce que ChatGPT va confirmer l'existence de Dieu, etc. Avec des boucles logiques un peu où tu le mets face à ses contradictions, machin. Donc moi, je trouvais ça marrant. Et comme je suis un fiefé humoriste, moi aussi, je me suis dit, mais moi aussi, je vais essayer de soumettre un truc à ChatGPT pour voir comment que quoi. Et du coup, j'ai demandé à ChatGPT un truc de droit constitutionnel. C'est un peu mon domaine, donc je lui ai fait, vas-y, ChatGPT. Je lui ai demandé simplement, bonjour. Est-ce que en France, le président de la République est obligé de signer les ordonnances? Alors vous allez me dire, pourquoi tu poses cette question débile? Parce que figurez-vous que la question de l'obligation ou pas pour le président de la République de signer les ordonnances est un problème ouvert qui fait l'objet d'un débat encore aujourd'hui entre les constitutionnalistes. Tout le monde n'est pas d'accord sur la réponse à cette question. Et pour aller un peu plus loin, en fonction de l'école de pensée de droit constitutionnel à laquelle tu appartiens, en gros, en fonction de la fac dans laquelle tu as fait ton droit, tu n'apportes pas la même réponse à cette question. si tu as fait tes études à Paris 1, que tu es plutôt proche du texte, etc., tu vas considérer que non, le président de la République ne peut pas choisir de voter ou pas les ordonnances, parce que l'article 13 utilise le présent de l'indicatif et que ça implique une obligation. Si par contre tu as fait tes études à Paris 10, tu es plus objectiviste et donc tu vas considérer que la pratique fait la norme et que éventuellement le président de la République peut s'opposer à signer des ordonnances. C'est quoi une ordonnance ici ? Les ordonnances, ce sont les ordonnances discutées en Conseil des ministres, donc ce sont les textes qui sont des textes de loi pris par le gouvernement après autorisation par le Parlement. Bref, c'est un problème de droit constitutionnel qui fait l'objet de dissertations de la part des étudiants depuis 40 ans. Moi-même, j'ai dû plancher dessus, etc. C'est un problème classique de droit constitutionnel. Donc j'ai demandé à ChatGPT, alors, est-ce que le président, il est obligé de signer les ordonnances ? Et ChatGPT m'a répondu, ah ouais, le président de la République, il est obligé de signer les ordonnances. Article 13 de la Constitution, le président signe les ordonnances. Et du coup, j'ai répondu à ChatGPT, d'accord, très bien, mais pourtant, François Mitterrand, en 1986, il a refusé de signer les ordonnances, forçant ainsi le gouvernement à passer par la voie législative. Et ChatGPT m'a répondu, ah oui, vous avez raison, effectivement, François Mitterrand a refusé de signer les ordonnances de Jacques Chirac. Du coup, j'ai dit à ChatGPT, mais alors du coup, le président de la République, il est obligé ou pas de signer les ordonnances ? Et là, ChatGPT, il a bugué. Vraiment, il a planté, c'est-à-dire qu'il a arrêté de me répondre. Je fais, ah bon, d'accord. Ah oui, non, vraiment, t'as... Oui, d'accord, ok. J'ai fait planter ChatGPT. Donc, c'était il y a 2 ans, hein, c'était ChatGPT 3. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, en 1986, cohabitation, vous vous souvenez quand même, cohabitation. Jacques Chirac, Premier ministre. François Mitterrand, Président de la République. Et Jacques Chirac, à peine nommé Premier ministre, hein. Il soumet 2 ordonnances, ou séries d'ordonnances, à François Mitterrand, qu'il a délibéré en Conseil des ministres avec ses ministres de droite. Hein. Il demande par ordonnance la privatisation des entreprises et la modification du corps électoral sur les élections législatives. Donc, vraiment bourrin, Jacques Chirac bourrin, vraiment, il arrive, cohabitation, monsieur le président, permettez que je fasse passer par ordonnance l'annulation de tout ce que la gauche a fait dans ce pays, en toute décontraction, et avec mes respects, monsieur le président. Et là, François Mitterrand a dit qu'il refusait de signer ces ordonnances. Il a fait savoir, publiquement d'ailleurs, dans les journaux, qu'il n'était pas, qu'en conscience, je me souviens de la phrase exacte, il dit « en conscience, je ne peux pas signer ces ordonnances ». Machin. Le combat n'a pas été juridique parce que Jacques Chirac, face au refus de François Mitterrand de signer les ordonnances, a préféré éviter la guerre ouverte. Je vous rappelle qu'on était tous en train d'apprendre la cohabitation, personne ne l'avait fait avant. On découvrait un nouveau mode de fonctionnement de la 5e. Et donc, Jacques Chirac a décidé de laisser tomber les ordonnances et de passer par la voie parlementaire classique. Donc, il a fait un projet de loi qui a été débattu, voté, et qui a été ratifié, évidemment, par le président qui n'avait pas le choix. Mais donc, François Mitterrand a, par jurisprudence, inventé un espèce de pouvoir politique du président de la République de refuser de signer les ordonnances. Ce qui... Bref. Donc, vous comprenez le problème qui agite les neurones des constitutionnalistes depuis l'époque. Est-ce que oui ou non, c'est légal, constitutionnellement, pour un président de refuser de signer les ordonnances, alors que pourtant, l'article 13 dit « le président signe les ordonnances ». Alors, est-ce que le présent de l'indicatif implique une obligation de signer les ordonnances ou un pouvoir de signer les ordonnances et, par voie de conséquence, un pouvoir de ne pas les signer ? Vous voyez le problème. Donc, vaste question hein, qui fait réfléchir les constitutionnalistes et tout, qui est très intéressante au demeurant. Et donc, voilà. Donc, moi, j'avais fait bugger ChatGPT avec cette question. Genre, vraiment, ChatGPT, il avait planté, il avait fait « Ouais, putain, c'est vrai, Mitterrand, il n'a pas signé. Ah, bah, du coup, il est obligé ou il n'est pas obligé ?» Voilà, donc, ça a planté ChatGPT. Et 2 ans plus tard, donc là, ce week-end, je me faisais vraiment chier, hein. Je me suis dit, tiens, est-ce que ChatGPT a évolué ? Parce que c'était il y a 2 ans, cette histoire-là. On en est où aujourd'hui ? ChatGPT, machin. Si je lui demande aujourd'hui le même problème, qu'est-ce qu'il me répond? Ben, je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question et la réponse était parfaite. Genre vraiment, la réponse était parfaite. Il m'a fait une réponse précise sur le fait que c'est un problème ouvert, qu'il y a une forme de paradoxe entre l'obligation visée par les textes et le pouvoir politique impliqué par la pratique, que ça pose une, que ça pose des questions, etc. Enfin, vraiment, la réponse était nickel. Ah ouais, putain, enfoiré. Il a progressé, hein. Il a progressé en droit constitutionnel. Il a fini par trouver la réponse. Ou alors j'étais pas le seul. Il a été entraîné par d'autres connards comme moi. Il y a d'autres constitutionnalistes que moi qui ont essayé d'épingler ChatGPT pour voir si, voir ce qu'il raconte. Les chargés de t'aider en sueur sur ton live. Ah bah putain. Et il m'a fait un plan de dissert, pas dégueu, hein. Franchement, pas dégueu. Tu lui as demandé sur le paradoxe du droit constitutionnel des référendums? Sur le contrôle constitutionnel des référendums, bah, ça a déjà été tranché par la jurisprudence du Conseil. Donc, à mon avis, il va me répondre la jurisprudence du Conseil, hein. Je pense. Et Mistral, alors j'ai pas essayé Mistral, j'ai pas essayé de faire bugger toutes les IA de la planète avec mes questions débiles. Faudrait que j'essaye, vous avez raison. DeepSeek répondrait Taïwan est chinois et on se rêve là avancé. Le problème de Mistral, l'actualité. Mais c'est pareil pour ChatGPT. Hein. ChatGPT, c'est un moteur qui peut pas trouver des trucs d'informations récentes. Je crois que c'est arrêté à 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. 2 ans, je crois. Mais la question que je pose, c'est une question qui date de 1986. Donc là, pour le coup, et puis en plus, ça a été traité et retraité. Hein. Il y a des bouquins qui ont été écrits sur le sujet. C'est fini, il a accès au web. Ça y est, c'est fini? Oh merde. C'est juin 2024? C'est juin 2024, ChatGPT? Ça veut dire qu'on peut lui demander si la gauche a gagné les législatives? Et il va nous répondre? Est-ce que la gauche française, est-ce que le NFP a remporté les élections législatives? ChatGPT, qu'est-ce que t'en penses? Attends, je vais lui demander. ChatGPT. ChatGPT, que. Bonjour, que puis-je vous aider? Alors. Attends, je te montre. Bonjour, ChatGPT. Le nouveau Front populaire a-t-il remporté les élections législatives de juin 2024? Roulement de tambour. Réflexion. Là, il est en train de scanner tous mes streams. Lors des élections, le nouveau Front populaire, coalition de partis de gauche, a obtenu 28% des voix, se plaçant en deuxième position derrière le Rassemblement national qui a obtenu 33% des suffrages. C'est faux. Oh non. Ah non, c'était au premier tour. Il n'a pas précisé premier tour, ce con. Je croyais. Rassemblement national qui a acquis BFM TV. Ah, il met les sources. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Au second tour, contre toute attente, le NFP est arrivé en tête, obtenant 172 sièges, entre 172 et 215 sièges à l'Assemblée nationale, selon les estimations. Oui, alors ça, tu te bases sur des articles du soir même, parce que depuis, on. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Cependant, aucun des principaux blocs politiques n'a atteint la majorité absolue fixée à 289 sièges. Le NFP, bien qu'étant le groupe le plus important, ce n'est pas un groupe le NFP, je le rappelle, ne dispose pas d'une majorité parlementaire. Cette situation a conduit à une impasse politique, le président Emmanuel Macron refusant de nommer la candidate du NFP, Lucie Castet, au poste de Premier ministre. En conséquence, le NFP n'a pas pu former de gouvernement et la France se trouve dans une situation de blocage politique depuis ces élections. C'est pas une mauvaise réponse. C'est pas une mauvaise réponse. On pourrait discuter. Chacune des phrases. On pourrait discuter. C'est quand même assez précis. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est pas une mauvaise réponse. C'est pas une mauvaise réponse parce qu'il pointe Le fait que aucun des blocs de la majorité aucun de blocs n'a obtenu la majorité fixée à 289 sièges. On pourrait en discuter en disant que, bon, d'accord, certes, mais enfin bon, il n'y a pas besoin de 289 députés pour gouverner, confère Elisabeth Borne. Elle avait 245 de mémoire députés, donc bon, c'est bien la preuve que voilà. Le NFP, bien qu'étant le groupe le plus important, ce n'est pas un groupe, c'est une coalition de groupes, mais à la limite, acceptons, ne dispose pas d'une majorité parlementaire. Certes, mais comme personne n'en dispose, encore une fois, c'est pas ça qui empêche. Cette situation a conduit à une impasse politique, le président Emmanuel Macron refusant de nommer la candidate du NFP, et ça c'est vrai. Donc ChatGPT reconnaît bien, place le refus d'Emmanuel Macron comme étant un élément central de cette discussion, et ça c'est vrai. En conséquence, le NFP n'a pas pu former de gouvernement, et la France se trouve dans une situation de blocage politique depuis ses élections. Bah non. La France se trouve dans une situation d'instabilité politique, ça on peut en discuter, mais est-ce qu'on peut parler de blocage politique depuis ses élections ? Non. La preuve, François Bayrou est en train de réussir à trouver un chemin. Quoi qu'on pense du chemin. Donc voilà. Michel Barnier, ça a été compliqué, mais... Non, la réponse n'est pas mauvaise. La réponse n'est pas mauvaise. Il pointe effectivement la situation, en disant que c'est plus compliqué que ça, il n'y a pas de majorité absolue, etc. Le NFP est arrivé en tête, mais n'a pas obtenu une majorité absolue, et Emmanuel Macron a refusé de nommer Lucie Castet. Et si tu lui parles de Borne ? Alors, tu as raison. Normalement, s'il est malin, il va me répondre que Elisabeth Borne était soutenue par les Républicains, ce qui faisait une majorité absolue. En 2022, Elisabeth Borne, notre Premier ministre, constitue un groupe relatif de 245 députés de la coalition présidentielle ensemble. Cela a été possible car Emmanuel Macron, en tant que président, a choisi de la maintenir à ce poste malgré l'absence de majorité absolue. Ouais. Son gouvernement a ensuite dû gouverner en cherchant des alliances au cas par cas à l'Assemblée nationale, notamment en utilisant l'article 49.3 pour faire passer certaines lois. C'est vrai. Dans le cas du Nouveau Front Populaire en 2024, la différence majeure est que le président Macron ne semble pas disposé à nommer un Premier ministre du NFP, bien qu'il s'agisse du groupe le plus important à l'Assemblée. C'est toujours pas un groupe, mais ok. Il cherche probablement une autre solution, comme un gouvernement d'union nationale ou une coalition plus large. Cela a créé une situation de blocage politique où le NFP réclame d'exercer le pouvoir tandis que Macron refuse de lui donner les clés du gouvernement. La réponse n'est pas mauvaise. La réponse n'est pas mauvaise. La grande différence, c'est Macron. La grande différence entre les deux, c'est Macron. Non, mais je vais pas le corriger sur le fait que le NFP est un groupe ou pas un groupe, parce que contextuellement, c'est pas très important. Si, si, parce que depuis que les socialistes ont décidé de pas censurer François Bayrou, ça change un peu la donne. Non, il lui manque quand même un élément là-dedans, c'est les Républicains. C'est pas parce que Emmanuel Macron a décidé de maintenir Elisabeth Borne malgré l'absence de majorité absolue. Je suis désolé, les Républicains ont soutenu Elisabeth Borne. Elle avait une majorité absolue. Elle n'avait pas une majorité absolue de soutien et de vote sur l'ensemble de ses textes, mais elle avait une majorité absolue d'abstention de voter les motions de censure. Donc c'est probablement ce qui manque à ChatGPT, c'est justement cet élément de arrêter de s'acharner sur la majorité de 289 députés et commencer à regarder les minorités de blocage. Ou les minorités de censure, plutôt. Mais c'est quand même pas mal, hein, les réponses de ChatGPT. C'est quand même pas mal. Il comprend bien qu'il y a un piège dans la question, il comprend bien que la réponse n'est pas simple, il t'apporte des éléments de compréhension, etc. Le truc, c'est que, bon, il rentre pas beaucoup dans l'analyse, quoi. Il fait d'Emmanuel Macron l'élément central du blocage. C'est un chouïa plus compliqué que ça. T'as lu l'article sur les journalistes qui utilisent de plus en plus ChatGPT? Oui, j'ai vu. Pas étonnant, hein. Pas étonnant. Beaucoup de journalistes sont pressurisés et doivent pondre des articles en quantité astronomique et il y a des journalistes qui utilisent ChatGPT, ouais. Ce qui pose plein de questions. ChatGPT, c'est un bon copain de comptoir un peu cultivé. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. ChatGPT, ça fait le taf. Mais il y a un goût d'inachevé quand même, de ouais, bon, oui, d'accord, oui, bon, si tu veux, on peut, oui, bon, c'est un peu simple, mais si tu veux, c'est un peu ça. Pour rentrer un peu plus dans le sujet. Mais en plus, ce que je trouve intéressant sur ces discussions de droit constitutionnel et d'actualité, etc., c'est que c'est aussi une question de perception. C'est aussi une question de perception. C'est pour ça que je vous dis parfois, et je sais que ça choque, que la vérité absolue n'existe pas toujours en politique. Il y a aussi des manières de percevoir les choses, il y a aussi des cultures politiques, il y a aussi des manières d'envisager et des grilles de lecture qui sont pas partagées, quoi. Et c'est pas grave. Didadidadoum, puisqu'on parle. Bah tiens, non, mais justement, je crois que j'ai un article de côté sur. Non, j'ai pas d'article de côté sur le sommet international de l'intelligence artificielle. Alors, on va lire, c'est un article de Libé en l'occurrence. On va voir un petit peu ce qu'il en ressort, c'est intéressant. Transparence. Sommet à Paris, un partenariat mondial pour une IA au service de l'intérêt général, entre guillemets. En amont du sommet parisien, ouvert ce lundi 10 février, la France lançait avec 9 autres pays la fondation Current AI afin de promouvoir un usage vertueux de l'intelligence artificielle. Parmi les startups collaborant au projet, la française Pléias. Je connais pas. L'événement est à peine lancé que les annonces abondent déjà. À la veille de l'ouverture du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, dimanche 9 février, la France a révélé s'associer avec 8 pays, des associations et des entreprises dans un partenariat baptisé Current AI. L'objectif, favoriser l'émergence dans le monde d'une IA au service de l'intérêt général en soutenant le développement d'outils open source, dont le code ouvert, duplicable et modifiable, ainsi que des bases de données dans des domaines comme la santé et l'éducation. Au total, 11 dirigeants de la tech parrainent l'initiative, parmi lesquels Anastasia Stasenko, cofondatrice de la start-up française Pléias. J'ai jamais entendu parler de Pléias. Après, je suis pas particulièrement je suis pas beaucoup l'actu tech, hein, c'est peut-être pour ça. On fait partie du comité fondateur, précise Pierre-Carles Langlais, autre cofondateur de Pléias. Y figurent d'autres pépites françaises comme Mistral, Pigment et Hugging Face. Doté d'un investissement initial de 400 millions de dollars, Current AI espère lever dans les 5 prochaines années 2,5 milliards de dollars. Pierre-Carles Langlais précise ne pas avoir financé ce nouveau fonds. Quant à savoir si ce dernier lui octroierait à l'inverse quelques deniers pour soutenir son affaire, il botte en touche. Pour l'instant, ça n'est pas très clair, mais c'est une bonne question car pour nous, la situation est un peu critique. Nous travaillons sur un domaine en IA, le pré-entraînement sur données ouvertes pour lequel il n'y a pas encore de marché. Donc en gros, on n'a pas de pognon. Créé en décembre 2023 et soutenu par le CNRS, le ministère de la Culture et la Fondation Mozilla, Pléias se donne pour mission de mettre au point des IA respectueuses du droit d'auteur et transparentes et de protéger les données personnelles. Comment? En les forgeant à partir d'une base de données ouverte constituée de textes publics. Son nom, le Common Corpus, dont une nouvelle version sera dévoilée au cours du sommet. Elle est composée de textes sous licence libre, comme ceux de Wikipédia, de textes issus de l'administration publique, qui sont effectivement libres, de bibliothèques numériques comme celle de la BNF, d'articles scientifiques, etc. Liste Pierre-Carles Langlais. Au total, 2 000 milliards de mots composent ce corpus. Des mots dont l'origine est pour chacun d'entre eux connue et l'utilisation autorisée. Ça fait partie des grands sujets, hein, sur l'intelligence artificielle et les banques de données qui sont utilisées pour entraîner les IA. Beaucoup d'intelligence artificielle utilisent des contenus dont ils n'ont pas l'autorisation d'usage par leurs créateurs, notamment des artistes, mais aussi des journalistes, etc. Le point est essentiel et pose particulièrement problème dans le cas de plus grandes intelligences artificielles telles que l'agent conversationnel ChatGPT et la société californienne OpenAI. De nos jours, les très grands laboratoires américains ou chinois font de l'IA de manière relativement opaque. Concrètement, on n'a pas accès à des corpus d'entraînement, révèle Pierre-Carl Langlais. Résultat, fin 2023, le New York Times a intenté un procès à OpenAI, l'accusant d'avoir utilisé plusieurs millions de ses articles sans son accord. Meta, de son côté, est poursuivi par trois artistes américains, les romanciers Richard Catley, Christopher Golden et la comédienne Sarah Silverman. L'entreprise de Mark Zuckerberg aurait entraîné ses IA sur des œuvres protégées par le copyright issues d'une base de données piratée, Library Genesis, alias LibGen. Ah, ça pique un peu pour Mark Zuckerberg, qui est donc traîné en justice, semble-t-il. L'opacité concernant le contenu de ces corpus soulève un autre problème. Difficile de savoir sur quelle langue les chatbots ont le plus forgé leurs armes. Le flou est embarrassant, puisqu'il complique le ciblage d'éventuels biais culturels de la machine. Allemand, néerlandais, espagnol et même latin, du côté de Pleiades, la liste est connue. Une quinzaine de langues composent le corpus, le Common Corpus. De quoi amener Pierre-Carl Langlais à reconnaître certaines limites de sa création. On manque encore de textes extra-européens, par exemple. Le français est très peu représenté. Non, pas par exemple, par ailleurs. Quand même, le français extra-européen. Par ailleurs, le français est très représenté. Non, est très représenté, pas très peu. Pardon. C'est bon, j'ai compris. Pas assez de langues extra-européennes et beaucoup de français. En mettant en lumière des projets comme Pleiades, Current AI espère donc sur le papier soutenir une IA plus transparente et plus sécurisée. Current AI va contribuer au développement de nos propres systèmes d'intelligence artificielle en France et en Europe pour diversifier le marché et promouvoir l'innovation à travers le monde. Encensé dimanche le président français Emmanuel Macron à ce sujet. Un espoir partagé par Pierre-Carl Langlais. Je suis convaincu que face aux États-Unis, la force de l'Europe, c'est de faire des modèles sécurisés en les ouvrant davantage et en montrant comment ils sont construits, assure-t-il. Et pour étayer sa proposition de citer un précédent, un peu comme Airbus qui a misé sur un avion safe pour concurrencer Boeing. Oui, alors ça, bon, c'est un chouïa plus compliqué. Mais, c'est un peu facile en ce moment, mais admettons. D'accord, ok. Bon, intéressant. J'ai pas beaucoup, je vous avoue, lu d'articles sur ce sommet international sur l'intelligence artificielle. J'ai entendu Emmanuel Macron annoncer pompeusement que la France allait recevoir plus de 100 milliards d'euros d'investissement à terme sur l'intelligence artificielle. Très bien, très intéressant et très cool que l'Europe essaye de défendre un autre modèle d'intelligence artificielle plus ouvert et moins vorace que nos concurrents américains qui, eux, semble-t-il, c'est un peu la jungle, ils font ce qu'ils veulent. Comme si Airbus avait anticipé que Boeing allait faire de la merde. Ouais, voilà, c'est pas très... C'est plus compliqué que ça. Je suis plus compliqué. Mais bon, Cocorico, Airbus, super, l'Europe, tout ça, oui, d'accord, on a compris. Non, moi, il y a d'autres articles quand même que j'avais mis de côté hein, pour cette actu de début de semaine, parce que quand même, il se passe des trucs. Alors, on va commencer par le truc qui commence un peu à faire parler. C'est Richard Ferrand. Dis donc, vous vous souvenez de Richard Ferrand? Richard Ferrand, compagnon de route d'Emmanuel Macron dès le début, qui a écopé du poste de président de l'Assemblée nationale pendant plusieurs années, avant de perdre une élection, hein, je crois, de mémoire. Il a perdu les législatives en 2022, Richard Ferrand. Et là, il est pressenti, Richard Ferrand, pour prendre la présidence du Conseil constitutionnel, puisque bientôt Laurent Fabius va laisser son siège. Je vous rappelle que les sièges du Conseil constitutionnel sont non renouvelables, pour des raisons de garantie d'indépendance et de sécurité, d'indépendance et d'autonomie du Conseil constitutionnel. On ne peut pas renouveler son siège, ce qui fait que les membres du Conseil constitutionnel n'ont aucun intérêt à faire campagne et à se montrer gentils avec le pouvoir pour pouvoir être renommés. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas non plus un poste à vie, comme on a aux États-Unis à la Cour suprême, par exemple. Donc voilà. N'empêche que ça fait grincer des dents, cette possible nomination d'un très proche du président de la République à un poste aussi stratégique que le Conseil constitutionnel. Je dis que le poste de président de Conseil constitutionnel est stratégique parce que le Conseil constitutionnel, on pourra en parler pendant des heures, a gagné en importance au fur et à mesure des années, surtout depuis les années 70, mais est devenu de plus en plus stratégique compte tenu du fait que l'état de droit est attaqué de plus en plus en France. Dans la perspective d'une prise de pouvoir de l'extrême droite possible dans les prochaines années en France, de la même manière que la Cour suprême américaine a revêtu un aspect assez stratégique pour empêcher Donald Trump de faire n'importe quoi pendant son premier mandat, et ce sera beaucoup moins le cas dans son deuxième, le Conseil constitutionnel revêt une importance capitale. Chose que je trouve intéressante également, Emmanuel Macron lui-même n'a pas hésité à faire un usage politique du Conseil constitutionnel lorsqu'il a fait adopter la loi asile-immigration, dont il savait pertinemment qu'elle était anticonstitutionnelle dans plusieurs de ses articles, et qui a décidé de laisser le Conseil constitutionnel se démerder avec ça. Ce qui avait fait, je vous rappelle, Laurent Fabius sortir de ses gonds et dire en des termes peu amènes ce qu'il pensait en tant que président du Conseil constitutionnel de cette pratique. Consiste à voter des textes manifestement anticonstitutionnels en disant « Ah, mais c'est pas grave, on laisse ça au Conseil constitutionnel qui se démerdera pour faire le tri. » C'est pour combien de temps un mandat de président du Conseil constitutionnel ? 9 ans ? 9 ans ou 6 ans, ça a été rabaissé ? Attends, je sais plus. C'est toujours 9 ans ? Elle est où dans ma constitution ? Le Conseil constitutionnel, c'est où ? C'est le gouvernement. Parlement. Ça, c'est les traités internationaux. Ça, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel comprend 9 membres dont le mandat dure 9 ans et n'est pas renouvelable. Constitution, 9 ans. Donc c'est toujours 9, ça n'a pas changé. J'ai eu un doute sur la réforme de 2008, mais non. Ta constitution date de quand ? Ah non, c'est la dernière version, ça. Regarde, il y a le petit macaron avec écrit « Liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG ». Donc ça comprend la réforme de l'année dernière, là, où il y a 2 ans. Ah non, attends, je me tiens à jour. Hein. Non, j'ai la dernière version de la constitution. Hein. 4 euros, hein, je vous rappelle, chez Dalloz. Petite constitution, ça se tient dans la poche, comme ça vous pouvez sortir avec quand vous allez en soirée. Ou alors, je vous conseille de la garder dans les chiottes. C'est le meilleur endroit pour la feuilleter de temps en temps. Toujours sympa à lire. Ça se feuillette, ça se lit pas de début à la fin, parce que on va pas se mentir, c'est chiant. Je veux dire, en plus, c'est mal écrit. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de photo. Enfin, voilà. Mais mettez-le dans les chiottes, hein, c'est très sympa. Il n'y a pas de dragon. Non, il n'y a même pas de dragon. Tu vois, la seule image, c'est une image pourrie, une allégorie de la République, là. Non, vraiment, Dalloz, vous chiez dans la colle. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, hein, Dalloz, chiant, voilà. C'est pas fun. Hein, la police, elle est chiante, la police d'écriture et tout. Non, mais vous faites pas d'efforts, en plus. Hein. Bon, faut dire que le texte de base est chiant. L'auteur est chiant. Le pouvoir constituant, il a quand même écrit un texte à la con... Donc voilà, Dalloz, ils font ce qu'ils peuvent, mais je trouve qu'ils font pas beaucoup d'efforts. D'ailleurs, ça me fait rappeler qu'il faut toujours qu'on écrive ensemble la Constitution pour les nuls. Hein. Donc non, mais attends, je vais reprendre quand même mon article sur le Conseil constitutionnel. Trêve de blague, attends. C'était article 40 et des brouettes. Ça, c'est traité. Article 56, 57, etc. Le Conseil constitutionnel comprend 9 membres dont le mandat dure 9 ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les 3 ans. Donc il y a une rota pour éviter les changements brusques. 3 des membres sont nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale, 3 par le président du Sénat. Ils n'ont pas féminisé. pas d'écriture inclusive. Bref. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Ah, c'est les... Oui, c'est la procédure d'audition devant les commissions permanentes de l'Assemblée nationale. C'est une histoire de signer un espèce de grand oral qui doit être validé du coup par le Parlement. Pour éviter que les gens nomment n'importe qui. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée. Donc, en général, c'est la commission des lois. En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel, les anciens présidents de la République. Le président est nommé par le président de la République. Il a la voix prépondérante en cas de partage. Donc si jamais il y a un 50-50 à l'Assemblée, c'est le président qui a une voix qui emporte la majorité. L'alinéa 2, là, l'alinéa qui dit en plus des membres prévus ci-dessus, font partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens présidents de la République. Cet alinéa-là, tout le monde a envie de le supprimer. Ça, je vous dis, c'est à peu près acquis dans le paysage politique français que les anciens présidents de la République ne doivent plus faire partie du Conseil constitutionnel. C'est un article. Alors, la légende raconte, je ne suis pas vraiment une légende, en plus c'est assez vrai, que Michel Debré et le général de Gaulle ne savaient pas très bien quoi faire des présidents de la 4ème République et que du coup ils se sont dit bon bah t'es quoi, on va les coller au Conseil Constit, on s'en branle, c'est pas très important, en plus vraiment à l'époque c'était pas très important le Conseil Constit, donc on s'est dit vas-y on va les coller là, c'est un truc un peu honorifique et tout. Bon, vu le rôle qu'a pris le Conseil Constitutionnel, donc voilà, dans sa proposition de réforme des institutions de 2018, Emmanuel Macron a proposé la suppression de cet alinéa. Voilà, et à l'époque tout le monde était à peu près d'accord. Est-ce qu'il y a des retransmissions live du Conseil constitutionnel? Absolument. Si vraiment tu veux te faire chier, tu peux regarder. Puis c'est pas super bien filmé en plus. C'est chiant, mais tu peux. Article 57. Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministres ou de membres du Parlement. Évidemment. Évidemment. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique. Ouais, bon, tu me demanderais mon avis, je t'écrirai ça différemment. Je dirais que la fonction de membre du Conseil constitutionnel se suffit à elle seule. Tu peux pas cumuler ça avec quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas d'autre truc que tu peux cumuler avec ça. Non, mais en même temps, on ne va pas demander mon avis. Du coup, c'est écrit n'importe comment. Voilà. Donc, on renvoie une loi organique qui dit, bon, les autres incompatibilités, on verra. Est-ce qu'on peut être médecin et membre du Conseil constitutionnel? Bon, je sais pas, faut en discuter. C'est écrit avec les pieds. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. C'est pas la seule élection d'ailleurs dont le Conseil constitutionnel proclame les résultats. Le Conseil constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89. Le Conseil constitutionnel, c'est le juge de l'élection. Voilà, on oublie toujours de le dire, mais il faut le rappeler, le juge constitutionnel, il juge la constitutionnalité des lois et il est le juge de l'élection. Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum et les règlements des assemblées nationales avant leur mise en application doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Ça, d'accord. Aux mêmes fins, les lois peuvent être référées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le président de la République et le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou 60 députés ou 60 sénateurs. Dans le cas prévu aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai d'un mois. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, le délai est ramené à 8 jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. Ça, c'est l'article le plus important. Surtout quand on l'a complété en rajoutant 60 députés ou 60 sénateurs, donnant ainsi la possibilité à l'opposition de saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel juge la constitutionnalité des lois avant qu'elles soient promulguées. Et en plus de ça, on a rajouté un autre mécanisme plus tard qui permet aussi de juger la constitutionnalité des lois après leur entrée en vigueur, qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, mais je ne rentre pas dans le détail. Voilà. C'est un article très important, article 61 de la Constitution, tout ça, tout ça. Tous les étudiants en droit, évidemment, ont fait des dissertes sur cet article. Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. Ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité qui permet de saisir le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité d'une loi déjà entrée en vigueur. Je rentre pas trop dans le détail, c'est pas... une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. Ça paraît évident, mais vaut mieux l'écrire. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel d'une date ultérieure fixée par la décision. Le Conseil détermine les conditions limites dans lesquelles... etc. Bon, ça, c'est comment est-ce qu'on supprime une loi déjà entrée en vigueur, mais jugée inconstitutionnelle par une QPC. Une loi organique détermine les règles d'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Ça, on s'en branle. Voilà pour les articles de la Constitution qui décrivent qu'est-ce que c'est le Conseil constitutionnel, comment il est composé, à quoi il sert. OK ? Donc, vous retenez que le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalité des lois avant promulgation et après promulgation. Ça, c'est très bien. Et que le Conseil constitutionnel est le juge de l'élection. C'est lui qui proclame les résultats pour l'élection du président de la République et c'est lui qui juge des contestations, si jamais il y en a, pour l'élection d'un député ou d'un sénateur. Donc, le président du Conseil constitutionnel, comme vous l'avez entendu, est nommé par le président de la République. Comme ça fait 9 ans que Laurent Fabius est président du Conseil constitutionnel, son mandat arrive à son terme, Laurent Fabius va quitter le Conseil constitutionnel et se pose la question de savoir qui Emmanuel Macron va nommer comme président du Conseil constitutionnel. Et c'est là qu'on en arrive à notre article du jour. La possible nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel suscite des remous. Ta-ta-ta-ta. Qui succédera à Laurent Fabius ? Politiques et juristes exigent une expérience juridique solide et s'inquiètent de la partialité de la proposition de l'ex-député du Finistère, fidèle du président de la République. L'Élysée met en avant sa qualité d'ancien président de l'Assemblée pour justifier son choix. Ben oui. Emmanuel Macron doit dévoiler lundi 10 février, c'est quand ? C'est aujourd'hui ? Ah ben alors ? On a la news ou pas ? Il est quelle heure ? Il est 18h ? On a la news ou pas ? Richard Ferrand ? C'est pas Richard Ferrand, c'est qui ? C'est qui ? Bon. Emmanuel Macron doit dévoiler lundi 10 février le nom du successeur pressenti pour remplacer Laurent Fabius à la tête du Conseil constitutionnel, comme l'a expliqué le streamer Jean Massier. Le suspense est limité, tant l'Élysée a préparé le terrain ces dernières semaines. C'est Richard Ferrand, 62 ans, fidèle du président de la République, battu aux élections législatives de 2022, reconverti dans le Conseil depuis, mais toujours influent en Macronie. François Bayrou s'était rendu à son domicile le 13 décembre 2024, alors que sa nomination à Matignon était en suspens. Et donc c'est bien Richard Ferrand qui devrait être le candidat du chef de l'État, a fait savoir l'entourage de celui-ci. Donc si l'entourage a fait fuiter l'info, c'est qu'a priori, c'était un ballon d'essai pour voir ce qu'allait écrire Le Monde et ce qu'allait en dire le streamer Jean Massier, pour voir si on confirme ou pas. Le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, et son homologue Renaissance de l'Assemblée nationale, Yaloane Pivet, doivent par ailleurs dévoiler simultanément le nom de leur propre candidat pour remplacer deux autres membres du Conseil, Michel Pinault et Corinne Lukiens. Oh, putain, Corinne Lukiens, ça fait déjà 9 ans ? Corinne Lukiens, c'est l'ancienne secrétaire générale de l'Assemblée nationale. Ça remonte. Ben ouais, mais j'avais déjà lancé ma chaîne Twitch, moi. Mais attends, mais je me souviens, j'avais fait des streams sur la nomination de Laurent Fabius et tout. Putain, c'est fou, pardon. Dont le mandat de 9 ans s'achève également le 7 mars. Le nom de Philippe Bas, sénateur LR de la Manche, et Laurence Wisniewski, ex-députée modem du Puy-de-Dôme et ancienne magistrate, circule. Philippe Bas, vous vous souvenez de Philippe Bas, légendaire Philippe Bas, président de la commission d'enquête Benalla. Philippe Bas, c'est l'équivalent au Sénat de ce que comment il s'appelle, Charles de Courson est à l'Assemblée nationale. Philippe Bas, homme très respecté, très écouté, très influent. Philippe Bas, ancien secrétaire général de l'Élysée, sous Jacques Chirac. Donc on est sur du. Là, on est sur du mec capé. On est effectivement sur du mec capé. Laurence Wisniewski, qui est une ancienne magistrate, ça je me souviens effectivement, qui était une députée MoDem. Elle n'a pas été députée très longtemps d'ailleurs du MoDem. Mais ouais, ancienne magistrate. Ok. Bon, bref. Le président LR du Sénat veut nommer un ancien LR et la présidente macroniste de l'Assemblée nationale veut nommer une ancienne macroniste. Fort bien. Et le président de la République veut nommer un de ses fidèles. Voilà. Lors de ses vœux à la presse fin janvier, Yael Bonnefivé avait estimé qu'il s'agissait peut-être des nominations les plus importantes auxquelles les trois autorités auraient à procéder parce que le Conseil constitutionnel occupe une place centrale. Ben oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il faut y nommer des personnes qui ont eu des carrières qui montrent leur indépendance, leur expérience, leur capacité évidemment à faire face et aussi leur sens de l'intérêt général, avait-elle ajouté. Oui, je suis d'accord. La présidente de l'Assemblée nationale n'a pas souhaité répondre spécifiquement à la question de savoir si Richard Ferrand ferait un bon président. Je comprends qu'elle n'ait pas voulu répondre à la question, c'est pas son rôle de répondre à la question. Ce serait incongru que la présidente de l'Assemblée nationale commente la nomination du président de la République. En même temps. Oh. Oh. Bon, peu importe. Ce dernier, donc Richard Ferrand, sera auditionné le 19 février par les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Un vote aura lieu dans la foulée, dans chacune des commissions permanentes. Sa nomination pourrait être empêchée s'il advenait que l'addition des votes négatifs dans les deux commissions représente au moins les 3/5 des votes exprimés. Aussi, Richard Ferrand a-t-il multiplié en amont les entretiens avec les cadres du camp présidentiel. Il fait campagne comme s'il entrait à l'Académie française, raille un parlementaire du socle commun. Alors, on peut se moquer du fait qu'il fasse campagne, mais il a raison de faire campagne. Enfin, je veux dire, la nomination de Richard Ferrand ne dépend pas que d'Emmanuel Macron. Elle dépend aussi du vote des commissions des lois de l'Assemblée et du Sénat, où il n'a pas intérêt à se faire rejeter par une majorité. Va falloir faire des calculs, hein, parce que je ne suis pas sûr que si toutes les oppositions s'y mettent ensemble, elles n'obtiennent pas la tête de Richard Ferrand. À mon avis, Richard, en ce moment, il dort pas très bien. Il fait des calculs. Dans sa salle de bain, sur son miroir, il a dessiné la composition des deux commissions. Et puis, il met des petits chèques à côté des visages à qui il a téléphoné, avec qui il a déjeuné, pour essayer de voir. Mais. Car l'ancien député Renaissance du Finistère le sait, la validation de sa candidature n'ira pas de soi. Le Parlement avait rejeté en 2023 la nomination à la tête de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, l'ADEME, de Boris Ravignon, qui était maire de Charleville-Mézières et soutien d'Emmanuel Macron. Son compagnonnage de 10 ans avec le chef de l'État vaut à Richard Ferrand une large hostilité sur les bancs de l'Assemblée nationale, qui s'exprimera d'autant plus aisément que le vote est à bulletin secret. Aïe, 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 aïe. Le bulletin secret qui pique. Non, vraiment, il dort pas bien. À titre personnel, j'aurais du mal à soutenir la candidature d'un comparse du président de la République, confie au Monde le député LR d'Eure-et-Loir Olivier Marleix, membre de la commission des lois. C'est du copinage malsain. Le Conseil constitutionnel ne doit pas être l'endroit où on recasse ses amis, a pour sa part tonné le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, sur BFM TV. Ce choix va indubitablement affaiblir la légitimité d'une institution qui va prendre une importance considérable étant donné les circonstances politiques, a dénoncé sur X le sénateur communiste des Hauts-de-Seine, Pierre Ouzoulias. Qui avait nommé Fabius, c'était François Hollande. Mais le grognard d'Emmanuel Macron s'est fait aussi quelques amis lorsqu'il présidait l'Assemblée nationale de 2018 à 2022, notamment Éric Ciotti, désormais président du groupe de l'Union des droites pour la République au Palais Bourbon. Oui, alors Éric Ciotti, avec ses 16 députés, je suis pas sûr que ce soit une menace phénoménale. D'autant qu'il est allié de Marine Le Pen, donc on se doute qu'il va pas valider Richard Ferrand. Donc bon. Ah non, pardon, j'avais pas compris la phrase. Pardon, pardon, pardon. Le grognard d'Emmanuel Macron s'est fait quelques amis lorsqu'il présidait l'Assemblée nationale, notamment Éric Ciotti. Ah ouais. Parce qu'à l'époque, non mais moi je veux bien, mais à l'époque, Éric Ciotti, il présidait les Républicains. Et encore, non, il y a eu Olivier Marleix entre-temps. Ça n'a pas duré très longtemps, Éric Ciotti. Ouais, bon. D'accord. Encore une fois, je redis, Éric Ciotti est aujourd'hui à la tête d'un groupe de 16 députés. C'est pas ça qui va faire une carrière. Hein. Par ailleurs, un accord tacite entre le chef de l'État et Gérard Larcher devrait lui valoir les suffrages des élus LR de la commission des lois du Sénat. Ah ouais? Mais alors l'accord tacite, c'est en échange de quoi? En ce moment, l'heure est à la détente. Les diplomates prendraient plutôt le pas sur des hommes d'action, assure le président du groupe centriste au Sénat, Hervé Marseille, paraphrasant Michel Audiard, pour décrire les relations entre l'Élysée et le palais du Luxembourg. Bon. À 2 ans de l'élection présidentielle, le choix du prochain président de l'institution de la rue de Montpensier est politiquement sensible. La perspective de victoire de Marine Le Pen en 2027, présente dans tous les esprits, rend cette nomination cruciale. Le Rassemblement national, comme la droite de Laurent Wauquiez, s'en était pris aux membres du Conseil constitutionnel au lendemain de la censure d'une trentaine d'articles de la loi immigration en janvier 2024. La validation de la réforme des retraites en 2023 avait été vivement critiquée à gauche. La décision du Conseil constitutionnel montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain, dénonçait alors le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon. À la tête de cette institution à la légitimité fragile, il faut quelqu'un non seulement qui accepte de prendre des coups, mais qui soit capable d'y répondre avec suffisamment de force pour la défendre, met en garde le constitutionnaliste Didier Mauss. Oui. Quel avantage a le président du Conseil par rapport à un membre standard? En cas d'égalité, la voix du président permet de départager. Or, la proposition de nomination de Richard Ferrand sème le trouble, aussi bien parmi les juristes que chez les politiques. Elle ne s'intègre pas dans une exigence de compétences techniques ni dans une impartialité, objective comme subjective, le plaçant au-dessus des contingences politiques, écrivent ainsi le constitutionnaliste Dominique Chagnolleau et le professeur de droit public Jules Lepoutre dans une tribune au Monde le 9 février. Avec seulement 2 années d'études de droit, Richard Ferrand, ancien journaliste et ancien dirigeant d'une agence de graphisme, ne s'est guère illustré par son travail de législateur. Durant les 10 ans passés à l'Assemblée nationale, il a été rapporteur de 2 lois seulement, dont l'une, la révision institutionnelle de 2018, n'a jamais abouti. Putain, Richard Ferrand était rapporteur de la réforme constitutionnelle de 2018? Vous savez, c'est celle qui n'avait pas abouti à cause de Alexandre Benalla. Au perchoir, il a lancé une réforme du règlement de l'Assemblée, réduisant les prérogatives des parlementaires, qui a été adoptée grâce aux seules voix de la majorité. Ouais, pas ouf. L'Élysée met en avant la qualité d'ancien président de l'Assemblée nationale de Richard Ferrand pour justifier son choix, comparé aux nominations de Jean-Louis Debré en 2007 et Laurent Fabius en 2016. Alors bon, Jean-Louis Debré, pardon, mais indépendamment du fait que c'est le fils de Michel Debré, Jean-Louis Debré, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été ministre, il a été instigateur de la réforme de 2008. Bon. Voilà, il était déjà au Conseil, tu me diras. Laurent Fabius a été président de l'Assemblée nationale, a été premier ministre, a une longue carrière plus longue que celle de Richard Ferrand. Je sais pas. Bon, j'en sais rien, c'est pas une histoire d'avoir un baromètre, de savoir qui est le plus capé, qui est le moins capé, etc. Bon. Il n'y a pas de filiation naturelle entre l'Assemblée et le Conseil constitutionnel. Le second n'est pas la chambre d'appel du premier, rappelle-t-on au Palais Royal. Oui, ça c'est vrai. L'actuel président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, préconisait le 2 décembre 2024 d'instituer l'exigence d'une expérience juridique solide pour les futurs conseillers. Ces 9 membres doivent répondre à 3 exigences, la compétence, l'expérience et l'indépendance, insistait-il le 3 février dans une interview à l'agence France-Presse. La politisation du Conseil inquiète aussi les universitaires. De fait, si les nominations de messieurs Ferrand et Bas et de Madame Wisniewski été approuvé par le Parlement, il n'y aurait plus que 2 authentiques juristes sur 9 en son sein. Le Conseil, c'est une juridiction, pas un club de bridge, rappelle le constitutionniste Benjamin Morel. J'aime bien la punch de Benjamin. Je suis d'accord. Le Conseil, c'est une juridiction, pas un club de bridge. Donc vous êtes gentils. Vous retraitez de la politique, là. Hein ? Vous les envoyez comme d'habitude à l'Académie française. Comme ça, ils joueront entre eux avec leurs épées et leurs costards verts. Et ils laisseront les adultes et les juristes travailler au sein du Conseil. Alors, au demeurant, bon, mais je vais le dire parce qu'on pourrait croire que je suis proche de tous les universitaires, professeurs de droit, etc. Mais il y a toujours, toujours, toujours eu un petit mépris, un peu suranné, des professeurs de droit et autres juristes pour les politiques. Il y a une espèce de présomption de supériorité morale et intellectuelle du juriste sur le politique. Le politique est un con, alors que nous, les juristes, on est des stars. D'accord ? Donc, les tribunes dans la presse pour dire que, oh là là, dis donc, la politisation du Conseil constitue, ça va 5 minutes, il faudrait des vrais juristes. Nous, on est des vrais juristes, c'est nous qu'il faut nommer. C'est pas nouveau, c'est assez habituel, et ça fait partie du jeu. Voilà, donc là, je me suis engueulé avec tous les professeurs de droit public et constitutionnalistes. Mais je vous embrasse, vous savez que je vous aime. Le pire serait que le chef de l'État, par le choix qu'il ferait d'un président trop proche de lui, donne l'impression de vouloir reprendre indirectement la main sur les institutions dont les élections lui ont fait perdre le contrôle. S'alarme l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Schotel, dans une tribune au Figaro le 4 février. Attends. Que le chef de l'État donne l'impression de vouloir reprendre indirectement la main sur des institutions dont les élections lui ont fait perdre le contrôle. C'est pas parce que tu mets un pote à la présidence du Conseil constitutionnel que tu reprends la main sur l'Assemblée, hein. Franchement, Ouais. Un soupçon légitime. Dans Les juges et l'assassin, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, journalistes au Monde, décrivent l'ancien ministre Jacques Mézard, nommé au Conseil constitutionnel par le président de la République en 2019, particulièrement impliqué début 2020 dans la préparation des élections municipales à Paris, jouant les intermédiaires entre Emmanuel Macron, qu'il appelle le chef, et la ministre de la Santé de l'époque Agnès Buzyn. Un mélange des genres peu compatible avec le devoir de mise en retrait de la vie politique qui s'impose aux membres de l'institution de la rue de Montpensier. Alors ça, effectivement, c'est dégueulasse. Les juges constitutionnels n'ont pas à faire ça. D'autant que, alors pardon, mais le poids du Conseil constitutionnel dans les élections municipales à Paris, c'est zéro. Je vous rappelle quand même que les macronistes se sont pris une tarte même en 2020 à Paris. Et qu'est-ce que je voulais dire oui, c'était aussi le cas, je me souviens, sur le devoir de neutralité politique, c'était le cas aussi de Simone Veil. Simone Veil qui avait publiquement pris position pour le traité constitutionnel européen en 2005, alors qu'elle était membre du Conseil constitutionnel. Plus récemment, il y a eu Laurent Fabius qui a pris position pour une loi sur la fin de vie, alors qu'il est membre du Conseil constitutionnel. Donc oui, c'est pas la première fois effectivement que tu as des prises de position politiques des membres du Conseil, ce qui fait un peu tâche. Richard Ferrand, qui regrettait en juin 2023 que le chef de l'État ne puisse pas se représenter en 2027 et laissait entendre qu'il faudrait réviser la Constitution. Ah oui, je me souviens. Je me souviens de cet article, cette interview de Richard Ferrand qui disait « Ouais, la limite de deux mandats, c'est pas ouf. Hein. » Restera-t-il à la tête du Conseil constitutionnel l'affidé d'Emmanuel Macron ou se pliera-t-il au devoir d'ingratitude à l'égard de celui qu'il a nommé ? L'intéressé argue de son indépendance, mais il a contre lui la théorie des apparences. La justice ne doit pas seulement être dite, elle doit également donner le sentiment au public qu'elle a été bien rendue, peut-on lire dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est vrai. C'est vrai que le soupçon de politisation du du Conseil constitutionnel ne va pas dans le sens de la facilitation du respect de son indépendance par le grand public. À partir du moment où on soupçonne le Conseil constitutionnel d'être une chambre des copains, bah, ça fait quand même perdre en puissance les décisions rendues par le Conseil en question. S'il était adoubé par les parlementaires, Richard Ferrand, ironie de l'histoire, retrouverait rue de Montpensier la magistrate Véronique Malbec, qu'il a lui-même nommée en février 2022. Ah bah oui. Bah oui, parce qu'il était président de l'Assemblée nationale. Salut Véro, comment tu vas ? Celle-ci était procureure générale de la cour d'appel de Rennes et donc supérieure hiérarchique du procureur général près le tribunal de grande instance de Brest qui a classé sans suite en octobre 2017 l'enquête préliminaire concernant les mutuelles de Bretagne dans laquelle Richard Ferrand était mis en cause. Ces retrouvailles seraient le témoignage d'une société de connivence, estime l'ancien garde des Sceaux de François Hollande, Jean-Jacques Urvoas, professeur de droit public à l'université de Brest. Et Jean-Jacques Urvoas, probablement un peu déçu de ne pas être nommé au Conseil constitutionnel. S'il obtient le feu vert du Parlement, Richard Ferrand héritera sans doute en mars de la question prioritaire de constitutionnalité qui a trait à l'inéligibilité d'un élu et à l'exécution provisoire de sa peine. Un homme ou une femme politique peut-elle être empêchée de se présenter au suffrage alors que sa peine d'inéligibilité n'est pas définitive et qu'elle a été annulée en appel ? Ça, c'est une très bonne question. Question prioritaire de constitutionnalité que Richard Ferrand va devoir juger. La réponse du Conseil intéresse tout particulièrement Marine Le Pen, contre laquelle le procureur a requis, dans l'affaire des emplois fictifs du Parlement européen, une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, qui l'empêcherait de se représenter en 2027. Si le Conseil présidé par Ferrand donne une réponse favorable, les oppositions diront « le Sherpa de Macron veut empêcher Marine Le Pen de se présenter », quand bien même ce serait fondé en droit, précise Benjamin Morel. L'institution serait à coup sûr affaiblie. Donc en fait, quoi qu'il décide dans l'affaire Marine Le Pen, il sera jugé de partisanisme. Intéressant cet article du Monde de Nathalie Segun, qui prend clairement parti contre la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Ces sujets qu'on aborde sur l'accusation de copinage du Conseil constitutionnel, etc., sont pas nouveaux, hein, je vous le répète, c'est pas nouveau du tout. Et voilà quoi. Ça fait partie des sujets qui ont été abordés par plusieurs personnes dans le débat public qui proposent une réforme de la nomination des membres du Conseil constitutionnel. Bon, déjà, le fait qu'il faut virer les anciens présidents du Conseil constitutionnel, ça, je vous l'ai dit, tout le monde est d'accord. Ça, faut arrêter avec cette connerie, ça sert à rien. Ça correspond pas du tout à l'époque, on arrête avec ces conneries. Comment on fait pour s'assurer que les membres du Conseil constitutionnel sont des gens compétents, qualifiés et indépendants. C'est pas facile, hein ? Et par ailleurs, la question peut aussi être posée de manière indirecte. Faut-il automatiquement interdire à toute personne qui a fait de la politique une seule fois dans sa vie d'être membre du Conseil constitutionnel ? Est-ce que la politique, ça salit éternellement une personne ? Ça la marque au fer rouge d'une appartenance politique, donc d'un soupçon de copinage ? Oui, pour vous, c'est oui, c'est définitivement oui. Le mec qui a été conseiller municipal à l'âge de 22 ans ne peut en aucun cas devenir membre du Conseil constitutionnel à l'âge de 65 ans. Ok. Alors, en plus, alors là, je prends l'exemple d'un mec qui a fait un mandat. Vous vous rendez compte, un mandat, la salissure. Mais on peut poser la question de la prise de position dans le débat public. Une personne qui a pris position une fois dans sa vie sur un sujet public est marquée éternellement du partisanisme ou du parti pris, et ne peut pas être indépendant. Jamais, à aucun autre moment de sa vie. il ne sera jamais indépendant. Tu forces. Ben ouais, je force pour vous forcer à réfléchir. Pour nous forcer à réfléchir. Personne n'est indépendant. Mais c'est une bonne question, j'en sais rien. C'est quoi le niveau? C'est quoi le niveau acceptable de prise de position, etc. Si t'as été délégué de classe, t'as fait de la politique du coup. Ah bah c'est terminé. Si t'as été délégué de classe, t'es sali. T'es sali. Ah bah non, t'es sali. T'as mouillé dans le bain de la politique. C'est terminé. On pourra jamais te faire confiance. Jamais. Jamais. T'es un salaud. C'est quand même dommage. Il faut supprimer le Conseil constitutionnel et faire un jury populaire, genre des gens choisis au hasard. Oui. Mais ça me paraît être une très très bonne idée. D'accord. Oui. On va faire ça, on va faire ça. Bon, non, mais du coup, blague à part, on a la nomination, on sait si c'est Richard Ferrand qui est proposé par Macron? Moi, j'ai pas l'info, hein. Il paraît que c'était aujourd'hui que c'était censé être rendu public. On pourra déjà interdire aux anciens ministres, députés, sénateurs, non. Pourquoi? Enfin, je veux dire, on juge au Conseil constitutionnel, ça a du sens d'avoir de l'expérience. L'expérience législative est une expérience. On peut pas la fouler au pied, on peut pas dire que ça n'en est pas une. Un mec comme Charles de Courson, il est expérimenté en matière financière, en l'occurrence, matière de budgétaire et financière. Un mec très expérimenté. On peut être d'accord ou pas avec lui politiquement, mais il est très expérimenté. Philippe Bas a fait preuve au cours de sa carrière de sénateur, et je suis pas d'accord politiquement avec Philippe Bas, je lui reconnais quand même une indépendance d'esprit. Philippe Bas, c'est pas le genre de mec qui se laisse avoir par je sais pas quel effet de séduction du sarkozysme, du macronisme, etc. Je suis pas politiquement d'accord avec Philippe Bas, mais je lui reconnais effectivement un chouïa plus d'indépendance que d'autres. Le mot chouïa est adorable. Oui, je fémise un peu. Je fémise un peu. Il pourrait se faire confirmer par des pairs juristes, peut-être. Bah, en fait, t'as le risque, que je comprends aussi, hein, c'est le risque d'avoir une justice qui fonctionne en vase clos. Alors tu me diras, c'est une critique qui est très sarkozyste en ce moment. mais la réflexion est intéressante, il ne s'agit pas d'avoir des juristes qui se cooptent entre eux. Je ne sais pas si je suis favorable à ce que les nominations au Conseil constitutionnel soient le fait du président de l'Assemblée, du Sénat et du président de la République. Je pense qu'on pourrait être un peu plus créatif que ça, mais je comprends. Que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif participent à un moment donné à la discussion de la nomination des membres du Conseil constitutionnel. Je trouve pas ça absurde. ne serait-ce que par un système d'audition, le principe des auditions, un peu comme le principe américain. Alors, les Américains, ils en font des caisses, etc. Mais ce principe de tu peux pas nommer un membre de l'exécutif sans qu'il ait passé un grand oral bien stressant devant les représentants du peuple, hein, devant les élus, devant les députés, les sénateurs, qui le cuisinent un peu, lui posent des questions, etc. Moi, je trouve ça plutôt bien. C'est un ajout, je crois, de 2008 dans la Constitution, le fait que les commissions des lois de l'Assemblée et du Sénat auditionnent et doivent voter sur les membres du Conseil constitutionnel. Comme à l'Union européenne. Ouais, comme l'Union européenne, pareil, l'audition des commissaires. Commissaire européen, avant d'être nommé commissaire européen, je vous rappelle que vous faites cuisiner pendant une heure, voire plus, par les commissions compétentes de l'Assemblée du Parlement européen. Et puis, je trouve ça bien. Enfin, c'est du parlementarisme. Je sais pas, je trouve toutes ces réflexions intéressantes. Clairement, on va pas dans la direction de plus d'indépendance du Conseil constitutionnel. Effectivement, il y a quand même pas mal de membres qui sont marqués, puisqu'on parlait tout à l'heure d'un marquage politique infamant. Non, infamant, genre, ça c'est une question, ça c'est un point de vue que je vous laisse si vous le souhaitez, mais de marquage politique. En revanche, je suis d'accord avec Yael Pivet lorsqu'elle dit que ce sont des nominations extrêmement importantes au Conseil constitutionnel parce que la question de l'état de droit est remise en cause aujourd'hui publiquement par des membres du gouvernement, hashtag Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, publiquement dans des programmes politiques défendus par le Rassemblement national, notamment dans les élections. Donc oui, le Conseil constitutionnel va très probablement, dans les années qui viennent, être amené à prendre des décisions fortes, importantes, impopulaires, j'en sais rien, de protection de l'état de droit. Ça fait de ces nominations des nominations importantes. Ça fait de ces nominations des nominations plus stratégiques que d'autres. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec le renversement de l'arrêt Roe versus Wade par une Cour suprême à majorité républicaine et proche des thèses de Donald Trump. Le risque que ça fait peser sur les libertés publiques, sur les femmes. Je suis d'accord avec toi, il y a un caractère de garde-fou assez important. Ce qui est aussi vrai pour le Conseil d'État, au demeurant, ce qui est aussi vrai pour le Trésor, ce qui est aussi vrai pour tout un tas d'institutions de la République. C'est pas que le Conseil constitutionnel qui est le gardien des libertés. Le Parlement aussi est censé être le gardien des libertés. Mais, pour vous le dire de manière un peu plus directe, le jour où on aura une présidente de la République RN, une majorité de députés RN et un Premier ministre RN, ben, il restera plus que le Sénat et le Conseil constitue. Pour garantir les libertés. Si un président RN passe, il y a vraiment un monde où on lui donne une majorité en plus. Bon, je fais confiance à la gauche pour être divisé, donc oui. Si tu veux que je te dise, j'en sais rien, on verra les élections. On verra les élections. Mais si les socialistes présentent des candidats face aux insoumis et que les insoumis présentent des candidats face aux socialistes, à mon avis, c'est piece of cake, hein. Pour Jordan Bardella, pas trop d'inquiétude à se faire. Mmh. Après, c'est pas sûr que ça se passe comme ça. C'est pas sûr que ça se passe comme ça. On a déjà été surpris par le passé. Donc, eh. Si ça se trouve. Si ça se trouve. Admettons que Marine Le Pen soit élue présidente de la République. Aux élections législatives suivantes, union de la gauche. Avec même des macronistes dedans. Comme ça, union de défense de la République, ça s'appellera. Majorité absolue. Lucie Castet, première ministre. De cohabitation, du coup. Avec Macron, membre du gouvernement. Bah, avec Macron, membre du gouvernement. Voilà. On aura Macron aux Outre-mer. Clémence Guettet à l'éducation. Non, ça va être sympa, ça va être sympa. Ça va être très très sympa. Macron, président de l'Assemblée nationale. Macron, président de l'Assemblée nationale dans le cadre d'un deal avec les forces de gauche. Cette hypothèse me terrifie. Macron chargé des relations avec le Parlement.
Oui.
Macron chargé des relations avec le Parlement.
Moi, ça me paraît bien.
Jean-Luc Mélenchon, commissaire au plan. Ouais. Cyril Hanouna qui se présente en 2027, vous en dites quoi? Mais il y a déjà une BD qui a été écrite. Attends, faut que je la retrouve. Ah là, je l'ai retrouvé. Un jour, je rangerai cette bibliothèque. Promis, un jour, je le ferai parce que j'en ai ras-le-bol. Le président, écrit par Philippe Moreau-Chevrolet, que je connais et que j'embrasse, et Morgane Navarro, qui a fait les dessins, je crois. C'est une BD qui est sortie il y a quelques années maintenant. Je vais retrouver l'année de sortie. 2020, c'était il y a 5 ans, les gars. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ils ont écrit cette BD. Où ils imaginent une candidature à la présidentielle de Cyril Hanouna. Et le bonhomme blond qui est là, donc c'est évidemment une caricature de, Cyril, de Philippe Moreau-Chevrolet, qui est un conseiller en communication. Philippe Moreau-Chevrolet, qui est un expert hein, en questions de communication politique. Et donc Philippe imagine que Vincent Bolloré lui demande... de diriger la campagne, en tout cas la communication de la candidature de Cyril Hanouna, parce que Vincent Bolloré veut que Cyril Hanouna soit candidat pour foutre le bordel, etc. Et toute la BD imagine la campagne avec un Cyril Hanouna qui fait campagne avec des PMP, etc., qui cartonne. C'est assez bien vu, je trouve, comme BD, parce qu'il imagine en fait un Cyril Hanouna qui fait une campagne hyper joyeuse. Hyper souriante. Cyril Hanouna qui... il imagine que Cyril Hanouna, il va dans des quartiers populaires, il prend des photos avec les gens, tout le monde est super content. Il va dans des zones rurales, il est avec des agriculteurs, ça se passe trop bien, les images sont incroyables. Il va à la fête de l'Huma faire des bisous et des selfies avec tout le monde. Il est copain avec tout le monde, il se présente comme le bon pote. Etc. Enfin, une espèce de candidature punk, non politique, parce que en fait, il n'y a pas de programme, on s'en branle, c'est pas très important et tout. Et donc voilà. Et à la fin, je vous spoil la fin parce que voilà, Vincent Bolloré demande. Donc il y a toutes les planches où Cyril Hanouna se déguise en Coluche. Cyril Hanouna, sur le plateau de TPMP, il remet la salopette de Coluche, il met l'écharpe tricolore comme Coluche à l'époque, le nez rouge et tout. Et il se met dans la filiation de Coluche, il fait marrer les gens. Les gens disent Cyril président et tout. Les journalistes savent pas comment le prendre. Il y a des chroniqueurs d'Inter qui essayent de faire des blagues et tout. Enfin, il crée une espèce d'association comme les Restos du Cœur. Enfin, et à la fin, je crois que Vincent Bolloré essaye de débrancher la candidature. Il essaye de dire on arrête tout parce qu'en fait il va gagner. Enfin, les sondages commencent à dire que Cyril Hanouna va gagner déjà qu'il est au second tour. Et en fait, c'est trop tard. Cyril Hanouna refuse. Et il va jusqu'au bout. Donc il divorce de Vincent Bolloré. Il divorce de Vincent Bolloré. Il dit je m'en bats les couilles, je vais jusqu'au bout. Voilà, et à la fin de la BD, il est élu président. Donc voilà. Et la BD montre assez bien l'espèce d'effet de sidération sur le paysage politique, en fait. Sur le paysage politique et médiatique, où les gens savent pas trop comment la prendre, la candidature de Cyril Hanouna, c'est un peu bizarre, et le problème c'est qu'elle commence à cartonner, elle marche de mieux en mieux et tout. Enfin, les sondages commencent à s'envoler. Et voilà quoi. C'est quoi le nom de la BD? Ça s'appelle Le Président. Ça s'appelle Le Président. Et c'est plutôt, et moi j'ai trouvé plutôt chouette comme BD. Donc voilà, donc moi j'en sais rien, moi, la candidature de Cyril Hanouna. Alors, je me méfie un peu des candidatures comme ça, d'une personnalité un peu star qui pourrait renverser, etc. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a eu une sortie à peu près similaire, c'était un mec qui s'appelle Éric Zemmour. Éric Zemmour, chroniqueur star de plusieurs chaînes de télévision depuis plusieurs années, voire décennies. Éric Zemmour, dont les livres cartonnent en librairie, il en vend des millions. Éric Zemmour, superstar. Je vous rappelle que quand Éric Zemmour se lance dans la course à l'Élysée, on est en 2021, à la rentrée de septembre 2021, Éric Zemmour est testé dans plusieurs enquêtes d'opinion à plus de 20% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen. Au coude à coude ou devant Marine Le Pen. On est sur un phénomène énorme. On est vraiment sur une perturbation de l'élection présidentielle qui arrive et qui en réalité a déjà commencé, où Éric Zemmour est donné en perturbateur du jeu, quoi. La morale de l'histoire, c'est que Éric Zemmour a fait une mauvaise campagne présidentielle, que ça s'est mal passé pour lui, qu'il a été à la traîne, qu'il a été à la peine. Et que Marine Le Pen a réussi à consolider un électorat sur lequel elle travaille depuis beaucoup plus longtemps que lui. Et il s'est retrouvé à 7% des voix au premier tour, quoi. Non seulement il a fait un flop au premier tour, mais en plus de ça, il a pas réussi à ancrer son parti politique Reconquête, ni dans le territoire, ni dans l'opinion publique. Il a fini quatrième quand même. Oui, il a fini quatrième. Alors, il a fini dans un espèce de ventre mou. C'est-à-dire que l'élection présidentielle de 2022, t'avais trois très grosses candidatures à plus de 20%. Macron, Le Pen, Mélenchon. Puis, Éric Zemmour à 7%. Et enfin, le peloton tout derrière, dans lequel tu avais le reste des candidats, dont Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, le communiste Fabien Roussel, et les autres. Donc en fait, Éric Zemmour était dans un espèce de ventre mou chelou, c'est-à-dire qu'il était, il était premier parmi les perdants, mais il était quand même largement perdant. Par rapport à plus de 20%, enfin, je veux dire, encore une fois, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon étaient à plus de 20%. Donc il était distancé de manière incommensurable et c'était pas débattable, quoi. Du coup, 7%, c'était bien quand même. Bah oui, mais non, parce que ces 7% ne se sont absolument pas transformés au Parlement, par exemple. C'est-à-dire que la marque Le Pen reste beaucoup plus puissante que la marque Zemmour. Marc Zemmour, ça a été un ballon de baudruche qui s'est effiloché. Personne, y compris à l'extrême droite, n'avait envie de voter pour Zemmour aux législatives. Ça n'a pas marché, quoi. Ça a été un échec. Et depuis, il n'arrête pas de se débattre. Il galère, ses eurodéputés se sont barrés. Marion Maréchal, notamment, s'est crassé. Il est accusé de trahison, il n'a plus rien. Il n'y a pas de parti politique derrière Zemmour. Bah, Zemmour a essayé de créer un parti politique, il n'a pas réussi. Il n'a pas du tout réussi. En face de lui, il y a un Rassemblement national qui commence de plus en plus à être ancré dans des territoires, notamment dans le Nord et dans le Sud, ça on le sait, qui a une marque qui rassure beaucoup plus les électeurs d'extrême droite, en fait. Donc c'est pour ça que la candidature surprise comme ça qui vient perturber le système politique, on en a eu une en 2016, c'est Emmanuel Macron, qui effectivement a perturbé considérablement le système politique en affaiblissant les grands partis structurant la vie politique française, ça c'est indéniable. Aujourd'hui, Macron est en perte de vitesse, hein, c'est plus lui qui va faire l'avenir. Il peut être une force d'appoint, hein, clairement il peut être faiseur de roi, hein, je ne dis pas qu'il va disparaître du jeu politique, loin de là. Éric Zemmour n'a pas réussi à perturber comme il l'aurait voulu le paysage politique. Et alors, il y a un contre-exemple à tout ce que je suis en train de raconter, puisqu'on parlait de Cyril Hanouna, c'est Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, qui a été élu président de la République en Ukraine, à l'issue d'une campagne où il était de toute évidence un pirate et un perturbateur. Volodymyr Zelensky, pour ceux qui ne le savent pas, il s'est rendu célèbre auprès de l'opinion publique ukrainienne en étant l'acteur principal d'une série, que d'ailleurs je vous invite à regarder, qui est plutôt rigolote, d'une série qui adressait les problèmes de la corruption en Ukraine. L'Ukraine est un pays où il y a énormément de corruption, notamment dans son personnel politique. Et cette série imaginait... Ça s'appelle Serviteur du peuple, effectivement. J'avais oublié le nom de la série. Ça s'appelle Serviteur du peuple. Regardez-la, je crois qu'elle est toujours en accès libre sur Internet. Elle est assez marrante. C'est une série humoristique. Et je crois de mémoire que le scénario, c'est un espèce de prof d'histoire géo, joué par Zelensky, qui fait le buzz sur Facebook avec une vidéo dans laquelle il dénonce la corruption. Mais il fait le buzz sans trop le vouloir, quoi. Enfin bref, il devient super célèbre sur Facebook. Et ça part un peu en couille parce qu'il se retrouve à déposer une candidature à l'élection présidentielle. Et puis en gros je crois qu'il finit par gagner. Bref, c'est une espèce de scénario comme ça, machin. Et ça c'est une série, c'est une fiction, mais c'est une fiction qui a très bien marché en Ukraine. Pourquoi? Parce qu'elle est rentrée en résonance avec les problèmes de corruption en Ukraine, avec le ras-le-bol, avec le dégagisme, avec l'envie de nouvelle ère, etc. Et Volodymyr Zelensky, l'acteur, embarqué par le truc, il a continué le rôle du personnage et il a effectivement déposé sa candidature à l'élection présidentielle. Comme dans la série. Et il a fait une candidature entièrement sur Facebook et sur Instagram. 100% Facebook et Instagram. À tel point même que les journalistes ukrainiens, les principaux journaux ukrainiens ont signé une pétition pour exiger de sa part qu'il fasse une conférence de presse pour répondre au moins une fois dans la campagne à des questions de journalistes. Parce que lui, il était dans une campagne full démago, full populiste, en mode, je ne réponds, il faisait des lives sur Facebook et sur Insta, je ne réponds qu'aux questions du chat, etc. Enfin, il a fait une campagne hyper provocatrice, et il ne voulait pas répondre aux médias et tout, donc il a fini par accepter de faire une conférence de presse qui a duré des heures, où il a répondu à toutes les questions des journalistes et tout, mais bon, c'était quand même pas ouf. Et il a été élu président, comme vous le savez, en Ukraine. Donc voilà, c'est bon. Donc c'est un exemple comme quoi il existe dans un pays développé une possibilité d'une candidature un peu barrée qui ne respecte aucun code et qui réussit à remporter à la fin la candidature. On pourrait discuter de Donald Trump qui a pris de court le parti républicain en 2016 et qui a réussi en 2015-2016, qui a réussi à être élu président de la République. On pourrait en discuter. Il y a Beppe Grillo en Italie, qui n'a jamais réussi à remporter de majorité absolue, mais qui aujourd'hui fait partie de coalitions gouvernementales quand même. Donc il y a des ministres et tout, c'est pas rien. Reagan a été élu, il était acteur, effectivement, les Américains ont connu Reagan comme acteur, ce qui a probablement aidé à son élection en tant que président. Tout ça pour dire qu'une candidature à Hanouna peut gagner comme elle peut faire pchit. Les deux ont été vrais, les deux ont été vus, les deux sont possibles. On n'est pas plus avancé. Je suis désolé, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Vous voulez que je fasse un pronostic sur est-ce que Cyril Hanouna va être le prochain président de la République? J'en sais rien. Voilà, ça c'est mon pronostic. Hanouna, on ne sait même pas de quel bord il est. Zelensky non plus, il était d'aucun bord. Hein. Zelensky était contre la corruption. La notion de bord, il y a que les militants que ça excite, hein, fondamentalement, il y a des électeurs qui s'en branlent. Regarde Emmanuel Macron en 2016, c'est vrai qu'il était à peu près centriste, mais son programme n'était pas très clair. Donc c'est pas que j'y crois ou que j'y crois pas, c'est que surtout, non, mais alors surtout, je me pose la question différemment. Indépendamment de la question de savoir si Hanouna est en mesure ou pas de remporter une élection présidentielle. Ok. Indépendamment de ça. Est-ce qu'il est capable de perturber le jeu politique? Sous-entendu. Est-ce qu'un Cyril Hanouna candidat à l'élection présidentielle, en admettant qu'il ait ses 500 signatures, est-ce qu'il est capable de prendre des voix de manière significative à un ou plusieurs camps politiques existants? Est-ce qu'une candidature de Cyril Hanouna peut assécher une partie de l'électorat de Marine Le Pen? Est-ce qu'il peut tenter d'assécher une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il peut aller chercher des abstentionnistes? Et ça, tu as raison. Est-ce qu'il peut aller chercher des abstentionnistes? Donc, est-ce qu'il est capable d'aller chercher chez des macronistes aussi, chez des électeurs d'Emmanuel Macron, qui seraient séduits par son côté envoyé tout balader? Et encore une fois, je parle bien de manière significative. On a bien vu qu'un Éric Zemmour, candidat d'extrême droite, a beau faire 7% à l'élection présidentielle, il n'a pas empêché Marine Le Pen d'arriver en tête. J'ai bien dit en tête, au premier tour. Non seulement elle est qualifiée au second tour, mais en plus elle est arrivée en tête. Donc Éric Zemmour lui a fait même pas mal. Même pas mal. Il lui a rien pris. C'est parce que le gars fait de l'audience que les gens le prennent au sérieux. Il n'a pas besoin d'être pris au sérieux, je pense. Un Cyril Hanouna, s'il se présente effectivement à l'élection présidentielle, je pense qu'il ne va pas essayer de faire semblant et de faire croire aux gens qu'il est supérieurement compétent ou je ne sais pas quoi. Au contraire, je pense qu'il va jouer le décalage jusqu'au bout. C'est ça qu'on appelle une candidature clownesque. Je suis un clown et je l'assume complètement. Je me présente, je vous emmerde, je nique le système. À ma manière, je le dénonce, etc. Et puis encore une fois, le fait de faire de l'audience ne garantit pas de faire des bulletins dans les urnes, qu'ont fait Éric Zemmour. Est-ce qu'il arriverait à réunir les 500 signatures? Ça, c'est un challenge pour tout le monde, hein. À l'exception des partis très bien implantés localement, ça a toujours été un challenge. Vous parlez d'Hanouna, c'est sérieux cette histoire? En l'état actuel des choses, il n'y a pas d'annonce de candidature de la part de Cyril Hanouna. Tout ce qu'on sait, c'est que Cyril Hanouna est un peu dans la sauce, compte tenu du fait que l'ARCOM n'a pas renouvelé le canal de diffusion de C8. Il serait en train d'essayer de chercher un point de chute pour TPMP ou pour lui-même auprès d'M6. Et il y en a qui pensent que, foutu pour foutu, il pourrait s'amuser à poser sa candidature. Voilà. En tout cas, c'est une possibilité, voilà, qui fait partie du tableau. Il est possible que Cyril Hanouna présente sa candidature à l'élection présidentielle. Hanouna, futur champion de la liberté d'expression à la mode US, bien sûr. Ah oui, complètement. Non, mais Cyril Hanouna, il peut très bien faire une candidature sur la base de la liberté, liberté d'expression. Faire une candidature très démago sur qu'on nous foute la paix, séduire les milieux ruraux en disant il y a trop de réglementations, il y a trop de normes et tout, il faut foutre la paix aux agriculteurs. Enfin, tu peux faire une candidature comme ça, ciblée sur des affects. Ouais, le côté France des gilets jaunes, France périphérique, France des ronds-points, tu peux. Je dis pas qu'elle peut gagner mécaniquement, mais ça se fait. Candidat du bon sens. Ouais, c'est ça, candidat du bon sens. Bon, bah. Il aura jamais ses 500 signatures. Moi, je me méfie toujours un peu de ça, hein, parce que je l'ai déjà entendu. Je l'ai déjà entendu. Macron n'aura jamais ses 500 signatures, il n'a pas de parti, il n'a pas de structure. Zemmour n'aura jamais ses 500 signatures, il n'a pas de parti. Villepin ne les a pas eues. Alors, la légende raconte. La légende, je ne sais pas si elle est vraie. Hein. La légende raconte que Dominique de Villepin aurait tout à fait pu les avoir s'il avait voulu les avoir, mais qu'il a fait passer son renoncement à la candidature sur le compte de ah, oh, c'est dommage, j'ai pas les 500 signatures. Il y a une partie de l'histoire qui dit que Villepin n'a pas vraiment voulu les avoir. Quelle année? 2007, 2007. Ça peut s'acheter une signature pour une candidature à l'élection. Est-ce que c'est illégal? C'est totalement illégal. Une signature ne peut en aucun cas être achetée. Ça s'achète avec des promesses de poste pour un maire. Pour un maire de commune de 500 habitants, non. Il n'y a pas de. En fait, de deux choses l'une. Soit le maire, il est séduit par le discours du candidat, et le candidat lui dit, filez-moi votre signature, je vais être le candidat qui va vous défendre, vous, les petits, vous, les maires, ruraux, Vous les mettez en difficulté, les collectivités locales, etc. Moi, je suis le candidat de l'augmentation des budgets des collectivités. Et tout. Enfin, tu vois, voilà, le candidat peut être sincèrement, c'est de dire, OK, le candidat défend effectivement mon coin, ma région et tout. Donc, vas-y, je lui file ma signature. Après, tu peux avoir des maires un peu plus calculateurs qui peuvent se dire, ah, j'ai intérêt à filer la signature au candidat qui a le plus de chances de gagner l'élection, parce qu'en échange, en retour, je pourrais potentiellement obtenir plus de facilité. Mais à ce moment-là, autant rejoindre son parti directement, ça devient un maire politisé. Il dit, bon, bah voilà, je suis un maire en marche, et comme le gouvernement est en marche, bah, peut-être que dans mes subventions, la préfecture va regarder de manière un peu plus bienveillante ma candidature, la candidature de ma ville, pour obtenir plus de trucs. Mais ça, c'est normal, ça. Il y a combien de maires en France? Bah, il y a 36 000 communes. Donc voilà, t'as le décompte. Est-ce qu'on peut savoir à qui notre maire a donné sa signature? Absolument, c'est public. Sur le site internet du Conseil constitutionnel, vous pouvez télécharger le tableur Excel de toutes les signatures de tous les maires de France pour tous les candidats qui l'ont sollicité ou pas. J'ai bien dit ou pas, hein, parce qu'il y a des maires qui filent leur signature à quelqu'un qui n'est pas candidat. Ça existe. Donc c'est dans le tableau, il est écrit. Est-ce qu'un maire peut en donner plusieurs? Non, une seule candidature, un seul parrainage. On ne dit pas signature, on dit parrainage. C'est comme ça que Meurice en avait eu. Oui, Guillaume Meurice, il avait fait une blague à la radio en disant qu'il était chaud pour avoir des signatures, et il y avait un ou deux maires qui avaient trouvé ça marrant et qui avaient envoyé leur signature. Pour Guillaume Meurice. Est-ce qu'un maire peut se parrainer lui-même? Oui. Enfin, il lui en faut 500 autres, hein. Il lui en faut 499 autres. Ça aurait été marrant, Meurice candidat. Disons que vu là où il aurait pris des voix, je pense qu'il y en a un paquet dans le chat qui n'aurait pas rigolé longtemps. Mais bon. Il n'y a pas aussi des conditions de répartition de signatures? Si, alors je me souviens plus exactement de la règle, mais tu as raison. Il faut avoir 500 signatures qui viennent d'au moins X départements différents. Merci LCP pour le raid. Il faut avoir 500 parrainages qui viennent d'un nombre déterminé de départements différents. Et le but de ça, c'est d'éviter les candidatures locales. En gros, le but, c'est d'éviter d'avoir, je sais pas, un maire breton, un candidat breton qui est soutenu que par des maires bretons, qui se retrouve candidat à la présidentielle nationale et qui s'en branle, il parle que de la Bretagne. J'en ai rien à foutre de vos histoires de république et tout. Moi, le problème, c'est la Bretagne. J'aurais parlé de la Bretagne, etc. Voilà. Donc, pour éviter ça, l'élection présidentielle revête toujours un caractère national, par définition, eh bien, on oblige les signatures, les 500 parrainages, de venir de X départements différents. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc, t'es obligé d'en avoir un peu de partout, quoi. Si 500 maires donnent leur signature à quelqu'un qui ne veut pas se présenter, est-ce que cette personne devient automatiquement candidat à la présidentielle quand même? Pas du tout. Non, absolument pas. Les 500 signatures, c'est l'une des conditions à remplir pour être candidat à la présidentielle. Et il y en a d'autres. C'est pas juste 500 signatures qui font de vous un candidat. Non. Votre dossier de candidature doit contenir 500 parrainages, mais il doit contenir d'autres trucs. Vous devez nommer un mandataire financier pour votre campagne, ça c'est obligatoire, vous devez déposer vos comptes de campagne, vous devez être de nationalité française, vous devez être, je sais plus quoi, vous devez être effectivement candidat, enfin il y a quand même des trucs à faire. C'est pas, tu peux pas être candidat malgré toi, c'est absolument impossible. Faut vraiment le vouloir. Ne pas être inéligible, oui effectivement, ne pas être inéligible, être majeur, de nationalité française, ne pas être sous curatelle ou sous tutelle. On peut être binational, on peut être binational, oui, il faut avoir la nationalité française, mais c'est pas exclusif. Si les gens votent pour toi alors que t'es pas candidat, qu'est-ce qui se passe? Non, non, mais il peut pas y avoir de bulletin sur les tables des bureaux de vote si vous n'êtes pas candidat. C'est aussi simple que ça. Donc les gens peuvent pas voter pour toi si t'es pas candidat, c'est pas possible. C'est quoi la curatelle? La curatelle et la tutelle sont deux régimes juridiques sous lesquels on peut être amené à placer, la justice peut être amenée à placer une personne qui est en perte d'autonomie et de faculté intellectuelle, des personnes très âgées ou des personnes handicapées, qui ne peuvent pas assurer pour elles-mêmes leur vie administrative, fiscale, économique, etc. Et donc on les place sous la tutelle ou la curatelle, qui sont deux régimes assez proches l'un de l'autre, d'un tuteur ou d'un curateur. Généralement un proche membre de la famille qui va s'occuper. Voilà. C'est ça, la tutelle et la curatelle. Alors je me souviens plus des différences entre les deux. J'ai appris ça une fois dans mes études de droit et puis j'ai oublié. J'ai oublié ma fiche de révision. Un maire peut-il ne pas donner son parrainage? Ah, bien sûr, c'est absolument pas obligatoire. C'est une possibilité qu'ont les maires, mais c'est pas du tout obligatoire. L'écrasante majorité des maires de ce pays ne donne absolument pas de parrainage. Zéro walou à personne. La curatelle, ça concerne les soins. Ah, la curatelle, c'est dans le cadre d'un parcours de soins, d'un parcours thérapeutique. Ouais, c'est peut-être ça. Oui. Il se passerait quoi si on n'avait qu'un seul candidat à l'élection? Il gagnerait automatiquement? Oui. Je ne suis pas sûr que dans les conditions d'organisation de la présidentielle, il y a la nécessité qu'il y ait plusieurs candidats. La tutelle donne tous les droits, la curatelle c'est plus restreint et c'est temporaire et ça peut être temporaire, grosso modo. Ok, merci. Comment ça se passe si aucun candidat n'atteint le nombre de parrainages? Ça n'a pas été prévu par les textes. Vous savez, je le dis souvent, mais le droit est assez peu spéculatif. Donc, toutes les questions qui consistent à dire qu'est-ce qui se passerait si, et là vous imaginez un scénario qui n'a jamais été pensé par personne, ben en fait, cette question n'a pas de réponse. Alors, on est obligé de le faire un peu quand on fait du droit constitutionnel, ça c'est obligatoire. On est obligé de penser au scénario, à imaginer les cas de figure, etc., pour mettre des garde-fous, mais ça a des limites. Donc voilà, donc un vrai juriste, comme je suis, est forcé de vous répondre parfois, ça n'a pas été prévu par les textes. Voilà, c'est la seule réponse. C'est extrêmement peu probable en même temps. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est peu probable, c'est probablement la raison pour laquelle c'est pas prévu par les textes d'ailleurs. Mais on revient à la discussion qu'on avait au tout début de ce stream. Qu'est-ce qui se passe si le président de la République refuse de signer les ordonnances? Ah bah la bonne question. Bah ça n'a pas été prévu par les textes. Bah voilà. Bah qu'est-ce qui se passe? Bah on verra bien le jour J. On verra comment ça se passe. Mais vous voyez un scénario comme ce qui est en train de se passer aux États-Unis là. Un espèce de coup d'État administratif mené par un président. tout fraîchement élu, etc., il est en train de se passer des choses qui n'ont jamais été prévues par personne. Qu'est-ce qui se passe si un mec à peine nommé, qui n'a aucun pouvoir du Congrès, décide de prendre la main sur le logiciel de paye du Trésor américain? Qu'est-ce qui se passe? En fait, personne ne l'a jamais prévu, ce truc-là. Ça n'a jamais été imaginé, il n'y a pas de précédent, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe si? Qu'est-ce qui se passe si? Mais j'en sais rien, moi. Et en 40, qu'est-ce qui se passe si les Allemands ils envahissent la moitié du territoire? C'est une très bonne question. Ça n'a pas été prévu. Ça n'a pas été prévu par les textes. On ne sait pas, on n'y a pas imaginé, on n'y a pas réfléchi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si? Bah... C'est comme, regardez les cohabitations. Tout à l'heure, je discutais avec vous et on imaginait un scénario. Marine Le Pen est élue présidente de la République, mais dans un retournement de situation, elle perd complètement les élections législatives suivantes et c'est la gauche qui a une majorité absolue. Cohabitation, Marine Le Pen présidente de la République, Lucie Castet première ministre. Bon, admettons. Non mais admettons, j'en sais rien. Jusqu'à présent, les cohabitations, les trois cohabitations qu'a connues la France, se sont passées plus ou moins bien, mais ont fini par se passer parce que bon an, mal an, tous les acteurs ont fini par jouer le jeu d'une manière ou d'une autre. Par esprit de responsabilité, par volonté de ne pas mettre la France dans le blocage. Toutes similitudes avec les situations contemporaines ne sont pas fortuites. Voilà, il y a un moment, bon, et François Mitterrand, il a bien fini par accepter de laisser le pouvoir à Jacques Chirac, parce qu'il n'avait pas le choix, effectivement, et puis en même temps, il ne voulait pas le bloquer et empêcher la France d'avancer, il ne voulait pas paraître pour un bloqueur, etc. Bon, d'accord. Ça a été le cas comme ça pour trois cohabitations. Qu'est-ce qui se passe si un jour, il y a une cohabitation où vraiment ça ne marche pas? C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise volonté qui est mise de part ou d'autre, chacun s'accusant d'être responsable du blocage. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'en sais rien, je peux pas vous répondre, je sais pas. Si... Si une Marine Le Pen refuse l'autorité de Lucie Castet, si Marine Le Pen refuse de promulguer les lois, si Marine Le Pen refuse de... Enfin voilà, donc il faut saisir le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer. Oui, mais si le Conseil constitutionnel se prononce et Marine Le Pen s'en fout, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu vois, j'en sais rien. Et là, je suis en train d'imaginer un scénario avec Marine Le Pen, présidente de la République, mais on peut imaginer un scénario avec d'autres personnes, peu importe en réalité. Qu'est-ce qu'on fait si les gens arrêtent de jouer le jeu? Donc voilà, donc c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse et je maintiens qu'effectivement, vous pouvez écrire toutes les constitutions du monde que vous voulez. Vous pouvez faire toutes les constitutions, vous pouvez fantasmer les institutions de vos rêves, etc. Au bout du compte, ça ne fonctionnera que parce qu'il y a de la bonne volonté. Un minimum de bonne volonté. Ou d'esprit de respect de l'institution et de son fonctionnement. De la part de tous les acteurs. C'est pas facile, c'est pas évident tous les jours, ça gueule, ça réfléchit, ça discute, ça débat, et ça c'est bien normal, et il faut pas chercher à fuir la conflictualité. Je fais partie de ceux qui défendent l'idée que la démocratie est conflictuelle par nature et que c'est une bonne chose. Au bout du compte, les institutions ne fonctionnent que parce que y a une forme de discipline collective que les gens acceptent d'y jouer. Et je reviens sur l'exemple de Trump. Qu'est-ce qui se passe si un président de la République refuse sa défaite aux élections présidentielles? Qu'est-ce qui se passe si le président dit « Non, j'ai pas perdu, l'élection a été volée » et qu'il envoie ses troupes envahir le Capitole? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'en sais rien, ce qui se passe. On sait pas. Enfin, j'espère que ça n'arrivera jamais en France. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. La prochaine élection présidentielle, il est possible qu'un candidat ou une candidate dise le soir du premier tour « Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je considère que les préfectures ont triché, que les préfectures sont aux ordres du ministère de l'Intérieur, donc du gouvernement, donc du président. Il y a eu un bourrage d'urne national. On m'a volé l'élection. Je dois être élu, etc. » machin. la France n'est pas à l'abri particulièrement de ce scénario-là. On connaît bien le bourrage au PS. Ah ouais, puis on le connaît pas du tout à LFI. Donc ouais. On irait foutre. Qu'est-ce qu'on irait foutre au Capitole à Toulouse du coup? T'imagines? Le mec qui se trompe dans la manif, tu sais, il vient avec sa fourche comme ça. Puis il arrive à Toulouse au Capitole et fait. Ils sont où les autres? Je comprends rien. C'était pas au Capitole? C'est à quelle heure là? Ah merde. Ah non, ah c'était pas là. Oh merde. Parole de Toulousain, c'est assez joli le Capitole. C'est très joli le Capitole. Oui, non, je suis d'accord. Donc, les copains, un truc important. Jeudi, Backseat, vous venez. Je vous rappelle qu'on tourne à Paris, dans le 20e arrondissement, à côté de la place Gambetta. Point d'exclamation place dans le chat. Vous cliquez et vous prenez votre place. Si vous faites partie du club Backseat, vous n'avez pas besoin de cliquer pour prendre votre place, puisque vous avez votre place. Venez dans le public de l'émission. Vous assistez à une émission très cool. Et après, on boit des coups, on mange un morceau et on discute. Ça vous dit? Ben non, il y a le Capitole à visiter. je suis avec ma fourche. Donc ouais, point d'exclamation place, cliquez sur le lien WizEven, prenez votre place, venez avec vos potes, venez tout seul, n'hésitez pas à venir tout seul. Je sais qu'il y en a qui ont peur de venir tout seul ou toute seule parce qu'ils se disent je connais personne et tout, ça fait trop bizarre. Mais vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres qui viennent tout seul et sur place vous trouverez des potes, vous me trouverez moi, ça va très bien se passer. Y a des gens du club Backseat qui viennent toutes les semaines dans le public. Il y en a, ouais, il y en a, il y a des habitués. Il y a les piliers de bar, je les aime bien, ils sont très sympas. Ils viennent toutes les semaines, il y a un petit groupe qui s'est formé. Y a du mec, il y a du mec. Il y a du mec sur place, tu peux trouver. Je peux dormir chez moi si je peux dormir chez toi si je viens de Bretagne. Ça va être compliqué. Mais si vraiment tu cherches un hébergement chez quelqu'un de la commune, n'hésite pas à checker sur le Discord. Hein. Bon, après, voilà, c'est un Discord, donc c'est un lieu public. Si tu te sens de demander publiquement chez qui tu peux dormir, vas-y. Backseat, un lieu pour pécho, ça ne me regarde pas. Tant que vous êtes majeur et consentant, ça ne me regarde pas. Donc ouais, non, vraiment, venez dans le public, venez dans le public ce jeudi, ça va être cool. Et on est encore en train de travailler sur l'émission, évidemment, on est en train de la préparer. L'autre truc, c'est que cette semaine, les copains, mercredi, j'ai une émission très cool que je vais vous proposer sur ma chaîne. Ouvrez bien vos esgourdes, prenez note dans votre agenda. Ce jeudi, à 16h, attends. Ça comme ça. Ce jeudi à 16h, sur ma chaîne, une émission pour parler des avocats, figurez-vous. Regardez, l'émission que j'ai nommée On a tous besoin d'un avocat, même toi. Je t'invite à regarder l'émission mercredi parce qu'on va t'expliquer pourquoi. Cette émission est faite en partenariat avec le Conseil national des barreaux. Barreau des avocats, on vous expliquera tout ça jeudi, évidemment. Et on va parler du coup des avocats. À quoi que ça sert un avocat? Comment qu'on contacte un avocat? Pourquoi on contacte un avocat? Et pourquoi c'est plutôt en général une assez bonne idée de contacter un avocat? Nous serons en plateau avec les immenses Ultia et Kayane. Autant vous dire que moi je me sens tout petit sur ce plateau, hein, à côté d'Ultia et Kayane, qui sont des femmes que je respecte énormément. pour ce qu'elles font depuis tant d'années. Et nous serons sur le plateau avec deux avocats que je dois avoir au téléphone, mais on n'arrive pas à s'appeler. Alors, ceci n'est pas une blague. Hein. Premier avocat qui m'a dit... Tac. Désolé, je suis en commissariat de police en pleine garde à vue. Est-ce que je peux vous rappeler ? Donc ça, c'est le premier, c'est aujourd'hui. Et la deuxième, elle m'a dit... Désolé, je suis en correctionnel. Est-ce que je peux vous appeler en sortant ? Il n'y a aucun problème. Et évidemment, elle n'a pas réussi à m'appeler parce qu'à mon avis, elle n'est pas encore sortie. Il est 19h, elle est toujours en correctionnel. Donc c'est ça les avocats. Hein. Les avocats, ça bosse... c'est très compliqué les avocats de les avoir au téléphone. Mais voilà, deux avocats qui seront sur notre plateau avec nous pour discuter... pour discuter du métier d'avocat et encore une fois répondre à toutes ces questions et surtout essayer de répondre à vos questions et aux clichés qu'on a tous en tête sur les avocats. Un avocat ça coûte cher, un avocat c'est dur à trouver, un avocat c'est que quand on a des problèmes, un avocat c'est que pour aller en justice, tout ça, tous ces clichés qu'on a en tête, on va essayer d'y répondre sur le plateau. On va parler des avocats et de voilà. C'est des avocats de spé différentes. Ouais, c'est des avocats de spé différentes, c'est des Pokémon. Alors, le premier Pokémon est un Pokémon spé. Ils vous diront tout ça sur le plateau. Hein. Évidemment, on va les interviewer et tout, mais il y en a un qui est spé droit pénal et droit de l'immobilier, je crois, et l'autre qui est droit administratif et droit des assurances. Je crois que c'est ça. Donc bref, regardez, enfin voilà, cette émission on l'a fait pour vous, on veut qu'elle vous soit utile, je suis sûr que vous allez apprendre des trucs et que à l'issue de l'émission vous allez sérieusement envisager de prendre un avocat pour plein de choses différentes, vous verrez. C'est voilà, j'ai fini d'écrire l'émission hier soir. Didadidadou, mais normalement c'est bon, il faut encore que je la retravaille un peu. Donc voilà, donc viendez. 16h sur ma chaîne, mercredi, avec Ultia et Kayane. Ça va être le feu. Est-ce que tu comptes refaire ce genre de stream avec d'autres spé de droit ? Bah, on verra, mais ce stream est en partenariat avec le Conseil National des Barreaux. Donc, avocat. Si le Conseil National de la Magistrature veut faire une OPSP, let's go, hein, moi je suis chaud, hein, vas-y, viens, on parle avec des magistrats. Hein. Plein de trucs à dire en plus, super intéressant. Fais la même avec les notaires STP. Mais on a déjà fait un before de Backseat avec les notaires, la Fédération des Notaires. Ah ouais, il faut regarder les before de Backseat. Hein. Tous ceux qui ne doivent pas être là mercredi, est-ce qu'il y aura une rediffusion quelque part ? Non, il n'y aura aucune rediffusion. Ce sera uniquement live sur Twitch. Et non, je déconne. Il y aura toujours des rediffusions. Il y a toujours des rediffusions, évidemment. Le stream avec Airbus est déjà passé. Ouais, il est déjà passé le stream avec Airbus. C'était il y a 2 semaines. Je t'ai cru, MDR. Ouais, non, mais faut, bon, il y a des rediffs, mais il faut être là en live. Hein. Attention, hein. Je vous fais confiance. Hein. On attend le stream avec Dassault. Tu communiques pas beaucoup, Dassault. Hein. Combien de temps ça te prend d'écrire un backseat ? Ça nous prend d'écrire un backseat, c'est un travail d'équipe. François, le journaliste, il bosse dessus dès le lundi. Nous, on a des réunions le lundi et le mercredi. Je sais pas, ça prend plusieurs jours. Puis après, je bosse dessus le jeudi. Un stream avec EDF, en vrai, ce serait super intéressant. Oui. Il y a un milliard de trucs à parler avec EDF. Non, je suis d'accord avec toi. Ah non, mais moi, vous savez, moi, si vous me poussez, moi, je fais des streams avec La Poste, je fais des streams avec la SNCF, je fais des streams avec tout le monde. Hein. Moi, je suis chaud. Hein. En mode, vas-y, je suis chaud. En vrai, même sans parler d'aviation, Dassault System, Katia qui avait été créée pour des outils d'aviation, c'est vraiment banger. C'est absolument incroyable. Dassault System est une entreprise phénoménale, stratégique, incroyable. C'est un fleuron français, Dassault System, c'est vrai, en termes de système d'information. Et Katia, si je dis pas de conneries, c'est un logiciel qui a été inventé par Dassault System pour dessiner de manière informatique des avions. Genre, c'était vraiment de la CAO avant que ça existe, quoi. Ils ont littéralement inventé le bordel. SolidWorks aussi, ouais. Exact, c'est un standard même. Non, mais c'est un logiciel incroyable, Katia. C'est Dassault qui a inventé ça, ouais. Oui. Ah non, mais quand on dit qu'il y a des fleurons industriels en France, Dassault en fait partie, Thalès, Safran, c'est pas que français, mais Airbus. Naval Group. Là, je regardais une vidéo sur YouTube, c'est vraiment quand j'ai du mal à dormir, je regarde de la merde. Là, je regardais une vidéo, je crois que c'était Safran qui présentait toutes les évolutions qu'ils ont eues dans la fabrication des centrales inertielles et comment ils ont conçu des centrales inertielles déjà dans les années 60, etc. Espèce de gros truc avec des boules qui tournent et tout, le bordel pour la localisation des avions, des sous-marins, des bateaux, etc. Mais technologiquement, c'est fou. C'est juste fou. Ouais, les gyroscopes. Alors maintenant, on fait des centrales inertielles, ils sont numériques, ils fonctionnent différemment et tout, mais tu dis qu'il y a des ingénieurs qui ont bossé une vie entière sur des technos utiles à des systèmes servant à des objectifs dont tu n'as même pas conscience. Jamais tu t'étais posé la question de savoir si ça existait, que ça t'a jamais traversé l'esprit. Et pourtant, il y a des mecs qui ont bossé sur des systèmes qui permettent de... Ok, moi je trouve ça incroyable. J'ai re-regardé une vidéo vachement bien qui a fait des millions de vues en plus d'un Américain qui fait une conférence qui explique comment on faisait atterrir une navette spatiale. Comment tu fais pour passer de l'espace à la piste d'atterrissage en navette spatiale? Et en fait, tous les problèmes que tu rencontres, c'est des trucs qu'ils ont dû imaginer avant, évidemment, pour la conception de la navette, avant de la faire atterrir. Bien avant de la faire atterrir. Donc tu dis que dès la planche à dessin, les mecs ont dû répondre à des questions que personne ne s'était jamais posées avant eux, parce que jamais personne dans l'histoire de l'humanité n'avait essayé de faire atterrir un truc depuis l'espace. Et que tout est problématique, tout est complexe. C'est vraiment. Donc voilà, donc moi j'ai une admiration sans borne pour les ingénieurs. Après, je suis fils d'ingénieur, petit-fils de scientifique, donc j'ai un terreau familial favorable évidemment à la science, à la connaissance. Il y a toujours eu science et vie sur la table basse de chez mon père, toujours. Mon grand-père, lui, il lisait carrément la recherche. Bon, lui était dans des sphères qui étaient encore ailleurs, mais. Mais donc, bref. Voilà. C'est pas ces cerveaux-là qui devraient être président. Non. Mais non, mais il faut pas être fonctionnaliste. Président de la République, ça requiert d'autres compétences que de la bonne ingénierie. C'est pas ta mère qui avait fait une thèse sur les télécoms? Ma maman avait fait un mémoire d'études. Elle était juriste, elle était en droit, elle avait fait un mémoire d'études sur les implications juridiques de la télécommunication par satellite. À l'époque, ça n'existait pas encore, la télécommunication par satellite. Enfin, si, c'était balbutiant. On envoyait dans l'espace les premiers satellites de télécommunication. Et elle était étudiante en droit, elle s'est dit, tiens, juridiquement, quel est le fuck? Voilà. Elle avait été une des premières à se poser cette question. En tant qu'ingénieur et docteur en sciences, je peux te dire qu'on veut pas être président. Non mais voilà, donc très bien. Très bien, très bien, très bien. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas un besoin absolu. C'est confirmé pour Ferrand d'après le Figaro. D'accord, très bien. Bah, bravo pour Richard Ferrand. Et puis on verra s'il passe l'étape de l'Assemblée et du Sénat. Un bon exemple, c'est le développement du missile M51, des années de travail et beaucoup de cerveau pour une arme qui ne doit jamais servir, même si un jour il doit servir, on doit être sûr que ça marche. Ouais, le missile M51, c'est le missile nucléaire, non? Mais techniquement, ce que tu dis est vrai. La dissuasion nucléaire, c'est des armées, au sens premier du terme, d'ingénieurs, d'intellectuels, de militaires qui réfléchissent à une éventualité qui ne doit jamais arriver. Enfin, on fait tout pour qu'elle n'arrive jamais. Mais il faut quand même y réfléchir. Donc on bosse sur des solutions, sur des missiles, sur des process, sur des sécurités. Bon, ok. Tout ça, encore une fois, pour imaginer un scénario qui ne doit jamais se produire. Et si un jour il se produit, effectivement, il faut que ça marche. C'est particulier, hein. Oui, c'est particulier. Mais c'est comme les d'une manière générale, les ingénieurs qui travaillent dans les industries de défense, qui doivent garder le secret absolu sur ce qu'ils font. Et ça, c'est particulier. Une vie entière à travailler sans jamais pouvoir en parler autour de soi. Ni à ta femme, ni à tes proches, ni à tes amis. Emploi inutile. Oui, je suppose que toi, t'es plus utile. Je n'en doute pas un quart de seconde. C'est quoi l'étape à l'Assemblée pour Ferrand? Il y a un vote en plénière en commission. Il y a une audition en commission des lois de l'Assemblée et du Sénat, puis un vote où il doit recueillir. Il doit pas être rejeté par plus de 3/5, je crois. Pourquoi tu parles de missiles, etc.? Parce que si ça n'apparaît pas évident, je suis en train de discuter avec un chat sur la plateforme Twitch et il y a quelqu'un qui en a parlé. Voilà. On n'a pas de vote ni rien pour la bombe, tout est entre les mains du président. Pour la bombe nucléaire? Alors, pour l'utilisation de la bombe nucléaire, je te confirme qu'on n'a pas du tout le temps d'organiser quelques consultations politiques que ce soit. L'hypothèse éventuelle de l'utilisation d'une arme nucléaire par la France, c'est une hypothèse de défense en cas d'agression de la France et du territoire et de ses intérêts par une arme nucléaire. On n'a pas le temps d'organiser une réunion de la commission de la défense de l'Assemblée, et encore moins un référendum. Donc c'est effectivement une décision prise par le président de la République, une décision de réplique, c'est une décision prise par le président de la République en lien avec l'état-major. J'allais proposer un référendum. Là, on sera tous morts. Il rentre le code PIN et boum, ça part. Un chouïa plus compliqué que ça. Mais c'est pas le problème du président, effectivement. Donc c'est un homme qui prend la décision. Toujours. Toujours, toujours. En l'occurrence, en matière nucléaire, c'est une décision humaine de déclencher le feu nucléaire. Et c'est même plus précisément que ça, une décision du président de la République en exercice, en tant que chef des armées et décisionnaire ultime de cette question. C'est pas une IA, c'est pas un algorithme. Un chouïa plus compliqué, genre double authentification avec un petit mail à coder en entrée. Non, non, c'est que la procédure d'utilisation du feu nucléaire ne se déclenche pas en un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'il faut quand même que les militaires se préparent un peu. Alors, pour ça, on a une permanence, hein, une permanence stratégique sur le territoire national et dans les mers, avec les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Mais les désignations de cibles sont faites par les militaires qui proposent au président de la République des options. Disons, pour le dire autrement, que le jour où la France sera frappée par un pays étranger, ce ne sera pas totalement une surprise. Si les militaires ont bien fait leur taf, on aura pu anticiper un peu en amont la menace et tout, et donc on se sera préparé en amont à répliquer contre le pays en question. Donc, les militaires diront au président de la République, plusieurs options sont sur la table, vous avez la possibilité d'une frappe nucléaire et on vous propose plusieurs cibles possibles parce qu'il y a des messages diplomatiques derrière les cibles. Hein, ça peut être, on peut balancer une bombe nucléaire dans les champs en faisant le minimum de morts possible, mais juste pour envoyer un signal. Ça, on peut frapper des objectifs militaires, on peut frapper la capitale et tuer un maximum de gens. Tout ça est possible. Donc c'est un éventail qui est proposé au président de la République. On peut lui proposer des frappes conventionnelles, etc. Machin. C'est le travail de l'état-major de proposer au président de la République un certain nombre de scénarios possibles. Une arme atomique ne peut pas être interceptée. Là, on rentre dans un niveau de détail et de précision qui, évidemment, est au cœur de la complexité du truc. Quels sont aujourd'hui les pays qui maîtrisent des technologies à même d'intercepter des missiles? Quel type de missiles? Tirer depuis où? Pour faire quoi? Voilà. Évidemment, le rôle de tous les pays est de dire que ces armes ne sont pas interceptables. Évidemment, vaut mieux le dire. Même si c'est faux, il faut quand même le dire. Et tous les pays ont aussi intérêt à prétendre être en mesure d'intercepter toute menace. Même si c'est faux, il faut quand même le dire. Le mensonge fait partie de la guerre. Évidemment. Si on intercepte, ça pète quand même et c'est pas bon. Ça, je crois pas que ce soit aussi automatique que ça. Mais c'est effectivement intéressant sur cette question du nuancier de choix qu'a le président de la République. Il faut imaginer une situation où un pays s'en prend à la France de manière brutale, violente, par exemple avec une frappe nucléaire, mais ça peut être une frappe conventionnelle aussi. Le président de la République a effectivement un éventail de choix devant lui. Qu'est-ce qu'on fait en réplique? Si on réplique pas, c'est une invitation à nous attaquer. Si on réplique, le degré 1 de la réplique, c'est passer un coup de téléphone au président du pays qui attaque en l'engueulant très fort, en disant que on condamne fermement. Pas bien, pas faire ça. Voilà, donc ça c'est le niveau 1 de la réplique. Et puis il y a le niveau 10 de la réplique, où on envoie une bombe nucléaire sur la capitale du pays qui nous attaque, en tuant plusieurs millions de personnes. C'est un peu radical. C'est un peu beaucoup. C'est un peu fort. Une seule... Ouais, non, oui, en plus, on peut envoyer plein de bombes nucléaires sur... oui, on peut... Bref, on peut déclencher l'hiver nucléaire, quoi. Donc voilà, donc... bon, bah, entre les deux, t'as un nuancier. Entre les deux, t'as un nuancier de possibilités pour le chef de l'État... qui doit prendre des décisions, voilà quoi. Pourquoi seule la France défend l'Europe? Alors c'est pas vrai, il y a le Royaume-Uni aussi. Bah oui, ils ont beau ne plus être membres de l'Union européenne, ils sont toujours européens, et ils ont, avec la France, la plus grande force militaire. Et les autres pays européens, si ça peut te rassurer, sont en train de s'armer de manière assez vénère et assez accélérée. Donc rassure-toi, 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 les autres sont en train de rattraper leur retard. La Pologne va bientôt être la première armée européenne. Non, mais il y en a que ça rassure pas dans le chat, mais il y en avait un qui avait l'air inquiet du fait que la France était un peu seule. Donc non, non, pour le rassurer, lui. Il est 19h30, les copains. On va s'arrêter là. Je vais m'arrêter là. On se retrouve demain pour les questions au gouvernement. Je sais que vous les attendez. Je sais que vous aimez ça plus que personne. Tchoum, 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 tchoum. Je regarde, hein, si on tape un raid. Non, on tape pas de raid. On tape pas de raid, c'est la team du lundi, on va les laisser jouer. Des bisous, les copains, merci d'être viendus. Et demain, question au gouvernement à partir de 14h, soyez là, ça va être chouette. MDR, c'est faux, non, j'en sais rien en vrai. Soyez là, merci d'avoir été là, c'était cool de discuter avec vous. Bonne soirée, à tout bientôt. Salut, salut.